Cet enregistrement est hébergé sur Notes du Mont-Royal dans le cadre d'un exposé gratuit sur la littérature.
Arthur Rimbaud, Les étrennes des orphelins. La chambre est pleine d'ombre. On entend vaguement, de deux enfants, le triste et doux chuchotement. Leur front se penche, encore alourdi par le rêve, sous le long rideau blanc qui tremble et se soulève. Au dehors, les oiseaux se rapprochent, frileux, leur aile s'engourdit sous le ton gris des cieux, et la nouvelle année, à la suite brumeuse, laisse entraîner les plis de sa robe neigeuse, sourit avec des pleurs et chante en grelottant. Or les petits enfants, sous le rideau flottant, parlent bas comme on fait dans une nuit obscure. Ils écoutent, pensifs, comme un lointain murmure. Ils tressaillent souvent à la claire voix d'or du timbre matinal qui frappe et frappe encore son refrain métallique en son globe de verre. Puis la chambre est glacée. On voit traîner à terre, épars autour des lits, des vêtements de deuil. L'âpre bise d'hiver qui se lamente au seuil souffle dans le logis son haleine morose. On sent dans tout cela qu'il manque quelque chose. Il n'est donc point de mère à ses petits enfants, de mère au frais sourire, au regard triomphant. Elle a donc oublié, le soir, seule et penchée, d'exciter une flamme à la cendre arrachée, d'amonceler sur eux la laine et l'édredon, avant de les quitter en leur criant « Pardon ». Elle n'a point prévu la froideur matinale, ni bien fermé le seuil à la bise hivernale. Le rêve maternel, c'est le tiède tapis, c'est le nid cotonneux où les enfants, tapis comme de beaux oiseaux que balancent les branches, dorment leur doux sommeil, plein de visions blanches. Et là, c'est comme un nid sans plumes, sans chaleur, où les petits ont froid, ne dorment pas, ont peur. Un nid que doit avoir glacé la bise amère. Votre cœur l'a compris. Ces enfants sont sans mère. Plus de mère au logis, et le père est bien loin. Une vieille servante alors en a pris soin. Les petits sont tout seuls en la maison glacée. Orphelins de 4 ans, voilà quand leur pensée s'éveille par degrés, un souvenir, riant. C'est comme un chapelet qu'on égrène en priant. Ah, quel beau matin, que ce matin des étrennes! Chacun, pendant la nuit, avait rêvé des siennes dans quelque songe étrange où l'on voyait joujou, bonbon habillé d'or, étincelant bijou, tourbillonner, danser une danse sonore, puis fuir sous les rideaux, puis reparaître encore. On s'éveillait matin, on se levait joyeux, la lèvre à friander en se frottant les yeux. On allait, les cheveux emmêlés sur la tête, les yeux tout rayonnants, comme au grand jour de fête, et les petits pieds nus effleurant le plancher aux portes de parents tout doucement touchés. On entrait, puis alors les souhaits, en chemise, les baisers répétés et la gaieté permise. Ah, c'était si charmant, ces mots dits tant de fois. Mais comme il est changé, le logis d'autrefois. Un grand feu pétillait, clair, dans la cheminée, toute la vieille chambre était illuminée, et les reflets vermeils, sortis du grand foyer, sur les meubles vernis, aimaient à tournoyer. L'armoire était sans clé, la grande armoire. On regardait souvent sa porte brune et noire. Sans clé, c'était étrange. On rêvait bien des fois au mystère dormant entre ces flancs de bois, et l'on croyait ouïr, au fond de la serrure, béante, un bruit lointain, vague et joyeux murmure. La chambre des parents est bien vide aujourd'hui. Aucun reflet vermeil sous la porte n'a lui. Il n'est point de parents, de foyer, de clés prises, partant point de baisers, point de douces surprises. Oh, que le jour de l'an sera triste pour eux! Et tout pensif, tandis que de leurs grands yeux bleus, silencieusement tombe une larme amère, ils murmurent « Quand donc reviendra notre mère ?» Maintenant, les petits sommeillent, tristement. Vous diriez à les voir qu'ils pleurent en dormant, tant leurs yeux sont gonflés et leur souffle pénible. Les tout petits enfants ont le cœur si sensible. Mais l'ange des berceaux vient essuyer leurs yeux, et dans ce lourd sommeil met un rêve joyeux, un rêve si joyeux que leurs lèvres mi-closes, souriantes, semblaient murmurer quelque chose. Ils rêvent que, penchés sur leurs petits bras ronds, doux geste du réveil, ils avancent le front, et leurs vagues regards tout autour d'eux se posent. Ils se croient endormis dans un paradis rose. Au foyer plein d'éclairs chante gaiement le feu. Par la fenêtre on voit là-bas un beau ciel bleu. La nature s'éveille et de rayons s'enivre. La terre, demi-nue, heureuse de revivre, a des frissons de joie au baiser du soleil. Et dans le vieux logis, tout est tiède et vermeil. Les sombres vêtements ne jonchent plus la terre. La bise sous le seuil a fini par se taire. On dirait qu'une fée a passé dans cela. Les enfants tout joyeux ont jeté deux cris, là, près du lit maternel, sous un beau rayon rose, là, sur le grand tapis, resplendit quelque chose. Ce sont des médaillons argentés, noir et blanc, de la nacre et du jais, aux reflets scintillants, des petits cadres noirs, des couronnes de verre, ayant trois mots gravés en or. À notre mère.
Le forgeron. Le bras sur un marteau gigantesque, effrayant d'ivresse et de grandeur, le front vaste, riant comme un clairon d'airain, avec toute sa bouche, et prenant ce gros là dans son regard farouche, le forgeron parlait à Louis XVI. un jour que le peuple était là, se tordant tout autour, et sur les lambris d'or, traînant sa veste sale. Or le bon roi, debout sur son ventre, était pâle, pâle comme un vaincu, qu'on prend pour le gibet, et, soumis comme un chien, jamais ne regimbait, car ce maraud de forge aux énormes épaules lui disait de vieux mots et des choses si drôles que cela l'empoignait au front comme cela. Or, tu sais bien, monsieur, nous chantions tralala et nous piquions les bœufs vers les sillons des autres. Le chanoine au soleil filait des patenôtres sur des chapelets clairs, grenés de pièces d'or. Le seigneur, à cheval, passait, sonnant du cor, et l'un avec la harpe, l'autre avec la cravache, nous fouaillait. Hébétés comme des yeux de vache, nos yeux ne pleuraient plus. Nous allions, et quand nous avions mis le pays en sillon, quand nous avions laissé dans cette terre noire un peu de notre chair, nous avions un pourboire. On nous faisait flamber nos taudis dans la nuit. Nos petits y faisaient un gâteau fort bien cuit. Oh, je ne me plains pas, je te dis mes bêtises, c'est entre nous, j'admets que tu me contredises. Or, n'est-ce pas joyeux de voir, au mois de juin, dans les granges, entrer des voitures de foin énormes, de sentir l'odeur de ce qui pousse, des vergers quand il pleut un peu, de l'herbe rousse, de voir des blés, des épis pleins de grains, de penser que cela prépare bien du pain? Oh, plus fort, on irait au fourneau qui s'allume, chanter joyeusement en martelant l'enclume, si l'on était certain de pouvoir prendre un peu, étant homme à la fin, de ce que donne Dieu. Mais voilà, c'est toujours la même vieille histoire. Mais je sais maintenant, moi, je ne peux plus croire, quand j'ai deux bonnes mains, mon front et mon marteau, qu'un homme vienne, là, dague sur le manteau, et me dise « Mon gars, ensemence ma terre !» Que l'on arrive encore, quand ce serait la guerre, me prendre, mon garçon, comme cela, chez moi ! Moi, je serais un homme, et toi, tu serais roi. Tu me dirais « Je veux ». Tu vois bien, c'est stupide. Tu crois que j'aime voir ta baraque splendide, tes officiers dorés, tes mille chenapans, tes palsambleux bâtards tournant comme des paons. Ils ont rempli ton nid de l'odeur de nos filles et de petits billets pour nous mettre aux Bastilles et nous diront, c'est bien, les pauvres, à genoux. Nous dorerons ton Louvre en donnant nos gros sous et tu te saouleras, tu feras belle fête et ces messieurs riront les reins sur notre tête. Non ! Ces saletés là datent de nos papas. Oh ! Le peuple n'est plus une putain. Trois pas, et tous, nous avons mis ta Bastille en poussière. Cette bête suait du sang à chaque pierre, et c'était dégoûtant. La Bastille, debout avec ses murs lépreux, qui nous racontaient tout, et toujours nous tenaient enfermés dans leur ombre. Citoyens, citoyens ! C'était le passé sombre qui croulait, qui râlait quand nous prîmes la tour. Nous avions quelque chose au cœur comme l'amour. Nous avions embrassé nos fils sur nos poitrines. Et comme des chevaux, en soufflant des narines, nous allions fiers et forts, et ça nous battait là ! Nous marchions au soleil, front haut, comme cela, dans Paris. On venait devant nos vestes sales. Enfin, nous nous sentions hommes. Nous étions pâles, sire, nous étions sous de terribles espoirs. Et quand nous fûmes là, devant les donjons noirs, agitant nos clairons et nos feuilles de chêne, les piques à la main, nous n'eûmes pas de haine. Nous nous sentions si forts. Nous voulions être doux. Et depuis ce jour-là, nous sommes comme fous. Le tas des ouvriers a monté dans la rue, et ces maudits s'en vont, foule toujours accrue de sombres revenants aux portes des richards. Moi, je cours avec eux assommer les mouchards, et je vais dans Paris, noir, marteau sur l'épaule, farouche à chaque coin, balayant quelque drôle, et si tu me riais au nez, je te tuerais. Puis, tu peux y compter, tu te feras des frais avec tes hommes noirs qui prennent nos requêtes pour se les renvoyer comme sur des raquettes et tout bas, les malins se disent qu'ils sont sots. Pour mitonner des lois, coller de petits pots pleins de jolis décrets roses et de drogailles, s'amuser à couper proprement quelques tailles, puis se boucher le nez quand nous marchons près d'eux, nos doux représentants qui nous trouvent crasseux, pour ne rien redouter, rien que les baïonnettes. C'est très bien. Foin de leur tabatière à sornettes, nous en avons assez, là, de ces cerveaux plats et de ces ventres d'yeux. Oh, ce sont là les plats que tu nous sers, bourgeois, quand nous sommes féroces, quand nous brisons déjà les sceptres et les crosses.
Il le prend par le bras, arrache le velours des rideaux et lui montre en bas les larges cours où fourmille, où se lève la foule épouvantable avec des bruits de houle, hurlant comme une chienne, hurlant comme une mère, avec ses bâtons forts et ses pics de fer, ses tambours, ses grands cris de hâle et de bouge, tas sombres de haillons saignants de bonnets rouges. L'homme, par la fenêtre ouverte, montre tout au roi, pâle et suant, qui chancelle, debout, malade à regarder cela. C'est la crapule, sire, sa bave au mur, sa monte, sa pullule. Puisqu'il ne mange pas, sire, ce sont des gueux. Je suis un forgeron, ma femme est avec eux, folle, elle croit trouver du pain aux Tuileries. On ne veut pas de nous dans les boulangeries. J'ai trois petits, je suis crapule. Je connais des vieilles qui s'en vont pleurant sous leur bonnet parce qu'on leur a pris leur garçon ou leur fille, c'est la crapule. Un homme était à la Bastille, un autre était forçat, et tous deux citoyens honnêtes. Libérés, ils sont comme des chiens. On les insulte, alors ils ont là quelque chose qui leur fait mal. Allez, c'est terrible, et c'est cause que se sentant brisés, que se sentant damnés, ils sont là, maintenant, hurlant, sous votre nez. Crapules ! Là-dedans sont des filles, infâmes, parce que vous saviez que c'est faible, les femmes. Mais seigneurs de la cour, que ça veut toujours bien. Vous leur avez craché sur l'âme. Comme rien, vos belles, aujourd'hui, sont là, c'est la crapule. Oh, tous les malheureux, tous ceux dont le dos brûle sous le soleil féroce et qui vont, qui dans ce travail-là sentent crever leur front. Chapeau bas, mes bourgeois. Oh, ceux-là sont les hommes. Nous sommes ouvriers, sire, ouvriers, nous sommes
pour les grands temps nouveaux où l'on voudra savoir, où l'homme forgera du matin jusqu'au soir, chasseur des grands effets, chasseur des grandes causes, où, lentement vainqueur, il domptera les choses et montera sur tout, comme sur un cheval. Ô splendide lueur des forges, plus de mal, plus. Ce qu'on ne sait pas, c'est peut-être terrible, nous saurons. Nos marteaux en main, passons au crible tout ce que nous savons. Puis, frères, en avant ! Nous faisons quelquefois ce grand rêve émouvant de vivre simplement, ardemment, sans rien dire de mauvais, travaillant sous l'auguste sourire d'une femme qu'on aime avec un noble amour, et l'on travaillerait fièrement tout le jour, écoutant le devoir comme un clairon qui sonne, et l'on se sentirait très heureux. Et personne, oh personne, surtout, ne vous ferait ployer. On aurait un fusil au-dessus du foyer. Oh, mais l'air est tout plein d'une odeur de bataille. Que te disais-je donc ? Je suis de la canaille. Il reste des mouchards et des accapareurs. Nous sommes libres, nous. Nous avons des terreurs où nous nous sentons grands, oh, si grands ! Tout à l'heure, je parlais de devoir, calme, d'une demeure. Regarde donc le ciel. C'est trop petit pour nous, nous crèverions de chaud, nous serions à genoux. Regarde donc le ciel. Je rentre dans la foule, dans la grande canaille effroyable qui roule, sire, tes vieux canons sur les sales pavés. Oh, quand nous serons morts, nous les aurons lavés. Et si, devant nos cris, devant notre vengeance, les pattes des vieux rois mordorés sur la France poussent leur régiment en habit de gala, eh bien, n'est-ce pas, vous tous, merde à ces chiens-là ? Il reprit son marteau sur l'épaule. La foule, près de cet homme-là, se sentait l'âme, saoule, et, dans la grande cour, dans les appartements, où Paris haletait avec des hurlements, un frisson secoua l'immense populace. Alors, de sa main large et superbe de crasse, bien que le roi ventru suât, le forgeron, terrible, lui jeta le bonnet rouge au front. Soleil est cher. Le soleil, le foyer de tendresse et de vie, verse l'amour brûlant à la terre, ravi. Et quand on est couché sur la vallée, on sent que la terre est nubile et déborde de sang. Que son immense sein, soulevé par une âme, est d'amour comme Dieu, de chair comme la femme, et qu'il renferme, gros de sève et de rayons, le grand fourmillement de tous les embryons. Et tout croît et tout monte, ô Vénus, ô déesse, je regrette les temps, de l'antique jeunesse, des satyres lascifs, des faunes animaux, dieux qui mordaient d'amour l'écorce des rameaux, et dans les nénuphars baisaient la nymphe blonde. Je regrette les temps où la sève du monde, l'eau du fleuve, le sang rose des arbres verts, dans les veines de Pan, mettait un univers. Où le sol palpitait, vert, sous ses pieds de chèvre, où, baisant mollement le clair syrinx, sa lèvre modulait sous le ciel le grand hymne d'amour. Où, debout sur la plaine, il entendait autour répondre à son appel la nature vivante, où les arbres muets berçant l'oiseau qui chante, la terre berçant l'homme, et tout l'océan bleu, et tous les animaux aimaient
aimait en Dieu. Je regrette les temps de la grande si belle qu'on disait parcourir gigantesquement belle sur un grand char d'airain les splendides cités. Son double sein versait dans les immensités le pur ruissellement de la vie infinie. L'homme suçait, heureux, sa mamelle bénie, comme un petit enfant jouant sur ses genoux. Parce qu'il était fort, l'homme était chaste et doux. Misère, maintenant il dit « Je sais les choses » et va les yeux fermés et les oreilles closes. Et pourtant, plus de Dieu, plus de Dieu, l'homme est roi, l'homme est Dieu, mais l'amour, voilà la grande foi. Oh, si l'homme puisait encore à ta mamelle, grande mère des dieux et des hommes, si belle, s'il n'avait pas laissé l'immortelle Astarté qui jadis, émergeant dans l'immense clarté des flots bleus, fleur de chair, que la vague parfume, montra son nombril rose où vint neiger l'écume et fit chanter, déesse aux grands yeux noirs vainqueurs, le rossignol au bois et l'amour dans les cœurs. Je crois en toi, divine mère, Aphrodité marine. Oh, la route est amère, depuis que l'autre Dieu nous attelle à sa croix. Chair, marbre, fleur, Vénus, c'est en toi que je crois. Oui, l'homme est triste et laid, triste sous le ciel vaste. Il a des vêtements parce qu'il n'est plus chaste, parce qu'il a sali son fier buste de Dieu et qu'il a rabougri, comme une idole au feu, son corps olympien aux servitudes sales. Oui, même après la mort, dans les squelettes pâles, il veut vivre insultant la première beauté. Et l'idole où tu mis tant de virginité, où tu divinisas notre argile, la femme, afin que l'homme pût éclairer sa pauvre âme et monter lentement dans un immense amour, de la prison terrestre à la beauté du jour, la femme ne sait plus même être courtisane. C'est une bonne farce et le monde ricane. Au nom doux et sacré de la grande Vénus, si les temps revenaient, les temps qui sont venus, car l'homme a fini, l'homme a joué tous les rôles. Au grand jour, fatigué de briser des idoles, il ressuscitera, libre de tous ses dieux, et comme il est du ciel, il scrutera les cieux. L'idéal, la pensée invincible, éternelle, tout le Dieu qui vit sous son argile charnelle, montera, montera, brûlera sous son front. Et quand tu le verras sonder tout l'horizon, contenteur des vieux jougs, libre de toute crainte, tu viendras lui donner la rédemption sainte. Splendide, radieuse au sein des grandes mers, tu surgiras, jetant sur le vaste univers l'amour infini dans un infini sourire. Le monde vibrera comme une immense lyre dans le frémissement d'un immense baiser. Le monde a soif d'amour, tu viendras l'apaiser. Oh, l'homme a relevé sa tête libre et fière, et le rayon soudain de la beauté première fait palpiter le Dieu dans l'autel de la chair. Heureux du bien présent, pâle du mal souffert, l'homme veut tout sonder et savoir, la pensée, la cavale, longtemps, si longtemps oppressée, s'élance de son front. Elle saura pourquoi, qu'elle bondisse, libre, et l'homme aura la foi. Pourquoi l'azur muet et l'espace insondable? Pourquoi les astres d'or fourmillant comme un sable? Si l'on montait toujours, que verrait-on là-haut? Un pasteur mène-t-il cet immense troupeau de mondes cheminant dans l'horreur de l'espace? Et tous ces mondes-là que l'éther vaste embrasse,
vibre-t-il aux accents d'une éternelle voix? Et l'homme peut-il voir, peut-il dire « je crois » La voix de la pensée est-elle plus qu'un rêve? Si l'homme naît si tôt, si la vie est si brève, d'où vient-il? Sombre-t-il dans l'océan profond des germes, des fœtus, des embryons, au fond de l'immense creuset d'où la mère nature le ressuscitera? Vivante créature, pour aimer dans la rose et croître dans les blés? Nous ne pouvons savoir. Nous sommes accablés d'un manteau d'ignorance et d'étroites chimères. Singes d'hommes tombés de la vulve des mers, notre pâle raison nous cache l'infini. Nous voulons regarder, le doute nous punit. Le doute, morne oiseau, nous frappe de son aile et l'horizon s'enfuit d'une fuite éternelle. Le grand ciel est ouvert, les mystères sont morts devant l'homme debout qui croise ses bras forts dans l'immense splendeur de la riche nature. Il chante, et le bois chante, et le fleuve murmure un chant plein de bonheur qui monte vers le jour. C'est la rédemption, c'est l'amour, c'est l'amour. Ô splendeur de la chair, ô splendeur idéale, ô renouveau d'amour, aurore triomphale, où, courbant à leurs pieds les dieux et les héros, Callipyge, la blanche et le petit Eros effleureront, couverts de la neige, des roses, les femmes et les fleurs sous leurs beaux pieds écloses. Ô grande Ariadné, qui jette tes sanglots sur la rive en voyant fuir là-bas sur les flots, blanche sous le soleil, la voile de Thésée, ô douce vierge enfant qu'une nuit a brisée, tais-toi sur son char d'or brodé de noirs raisins, Lysios, promené dans les champs phrygiens par les tigres lascifs et les panthères rousses, le long des fleuves bleus, rougis les sombres mousses. Zeus, taureau, sur son cou, berce comme une enfant le corps nu d'Europée, qui jette son bras blanc au cou nerveux du dieu, frissonnant dans la vague. Il tourne lentement vers elle son œil vague. Elle laisse traîner sa pâle joue en fleurs au front de Zeus. Ses yeux sont fermés. Elle meurt dans un divin baiser, et le flot qui murmure de son écume d'or fleurit sa chevelure. Entre le laurier rose et le lotus jaseur glisse amoureusement le grand cygne rêveur, embrassant la Léda des blancheurs de son aile. Et tandis que Cypris passe, étrangement belle, et, cambrant les rondeurs splendides de ses reins, étale fièrement l'or de ses larges seins et son ventre neigeux brodé de mousse noire. Héraclès, le dompteur, qui, comme d'une gloire fort, ceint son vaste corps de la peau du lion, s'avance, front terrible et doux, à l'horizon. Par la lune d'été vaguement éclairée, debout, nu et rêvant dans sa pâleur dorée, que tache le flot lourd de ses longs cheveux bleus dans la clairière
sombre, où la mousse s'étoile, la dryade regarde au ciel, silencieux. La blanche sélénée laisse flotter son voile, craintive sur les pieds du bel Endymion, et lui jette un baiser dans un pâle rayon. La source pleure au loin, dans une longue extase. C'est la nymphe qui rêve un coude sur son vase au beau jeune homme blanc que son onde a pressé. Une brise d'amour dans la nuit a passé et dans les bois sacrés, dans l'horreur des grands arbres, majestueusement debout, les sombres marbres, les dieux, au front desquels le bouvreuil fait son nid, les dieux écoutent. L'homme est le monde infini.
Arthur Rimbaud, Bal des pendus. Au gibet noir, manchot aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin. Messire Belzébuth tire par la cravate ses petits pantins noirs grimaçant sur le ciel, et leur claquant au front un revers de savate les fait danser, danser au son d'un vieux Noël. Et les pantins choqués enlacent leurs bras grêles comme des orgues noirs, les poitrines à jour que serraient autrefois les jantes damoiselles, se heurtent longuement dans un hideux amour. Hourra ! Les gais danseurs qui n'avaient plus de panse, on peut cabrioler, les tréteaux sont si longs, hop, qu'on ne sache plus si c'est bataille ou danse. Belzébuth enragé racle ses violons. Oh, dur talon, jamais on n'use sa sandale. Presque tous ont quitté la chemise de peau, le reste est peu gênant et se voit sans scandale. Sur les crânes, la neige applique un blanc chapeau. Le corbeau fait panache à ses têtes fêlées. Un morceau de chair tremble à leur maigre menton. On dirait, tournoyant dans les sombres mêlées, des preux, raides, heurtant armure de carton. Hourra ! La bise siffle au grand bal des squelettes. Le gibet noir mugit comme un orgue de fer. Les loups vont répondant des forêts violettes. À l'horizon, le ciel est d'un rouge d'enfer. Hola, secouez-moi ces capitans funèbres qui défilent, sournois, de leurs gros doigts cassés, un chapelet d'amour sur leurs pâles vertèbres. Ce n'est pas un moustier ici, les trépassés. Oh ! Voilà qu'au milieu de la danse macabre, bondit dans le ciel rouge un grand squelette, fou, emporté par l'élan, comme un cheval, se cabre, et, se sentant encore la corde raide au cou, crispe ses petits doigts sur son fémur qui craque avec des cris pareils à des ricanements, et comme un baladin rentre dans la baraque, rebondit dans le bal au chant des ossements. Au gibet noir, manchot aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin. Arthur Rimbaud, première soirée.
Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets, malinement, tout près, tout près. Assise sur ma grande chaise, minue, elle joignait les mains. Sur le plancher frissonnaient d'aise ses petits pieds si fins, si fins. Je regardais, couleur de cire, un petit rayon buissonnier papillonner dans son sourire et sur son sein. Mouche au rosier. Je baisais ses fines chevilles, Elle eut un doux rire brutal qui s'égrenait en claire trille, un joli rire de cristal. Les petits pieds sous la chemise se sauvèrent. Veux-tu finir ? La première audace permise, le rire feignait de punir. Pauvret palpitant sous ma lèvre, je baisais doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre en arrière. Oh, c'est encore mieux. Monsieur, j'ai deux mots à te dire. Je lui jetai le reste au sein, dans un baiser qui la fit rire, d'un bon rire qui voulait bien. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets, malinement, tout près, tout près. Arthur Rimbaud. Ma bohème. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou, et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur, ou, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur.
Arthur Rimbaud. Les assis. Noir de loupe, grêlé, les yeux cerclés de bagues vertes, leurs doigts boulus crispés à leurs fémurs, le sinciput plaqué de hargnosité vague comme les floraisons lépreuses des vieux murs. Ils ont greffé dans des amours épileptiques leur fantasque ossature au grand squelette noir de leurs chaises. Leurs pieds aux barreaux rachitiques s'entrelacent pour les matins et pour les soirs. Ces vieillards ont toujours fait tresse avec leurs sièges, sentant les soleils vifs percaliser leur peau, ou les yeux à la vitre où se fanent les neiges, tremblant du tremblement douloureux du crapaud. Et les sièges leur ont des bontés, culottés de brun, la paille cède aux angles de leurs reins. L'âme des vieux soleils s'allume en mailloté dans ces tresses d'épis où fermentaient les grains. Et les assis, genoux aux dents, verts pianistes, les 10 doigts sous leur siège aux rumeurs de tambours, s'écoutent clapoter des barcaroles tristes, et leurs caboches vont dans des roulis d'amour. Oh, ne les faites pas lever! C'est le naufrage. Ils surgissent, grondant comme des chats giflés, ouvrant lentement leurs omoplates aux rages. Tous leurs pantalons bouffent à leurs reins boursouflés. Et vous les écoutez, cognant leurs têtes chauves aux murs sombres, plaquant et plaquant leurs pieds tors, et leurs boutons d'habit sont des prunelles fauves qui vous accrochent l'œil du fond des corridors. Puis ils ont une main invisible qui tue.
Au retour, leur regard filtre ce venin noir qui charge l'œil souffrant de la chienne battue et vous suez pris dans un atroce entonnoir. Rassis, les poings noyés dans des manchettes sales, ils songent à ceux-là qui les ont fait lever, et de l'aurore au soir, des grappes d'amygdales sous leur menton chétif s'agitent à crever. Quand l'austère sommeil a baissé leur visière, ils rêvent sur leurs bras de sièges fécondés, de vrais petits amours de chaises en lisière, par lesquels de fiers bureaux seront bordés, des fleurs d'encre crachant des pollens en virgule, les bercent le long des calices accroupis, tel qu'au fil des glaïeuls le vol des libellules, et leurs membres sagaces à des barbes dées. Arthur Rimbaud, Mes petites amoureuses. Un hydrolat lacrymal lave les cieux vert chou sous l'arbre tendronnier qui bave vos caoutchoucs. Blanc de lune particulière, au piala rond, entrechoquez vos genouillères, mes laiderons. Nous nous aimions à cette époque, bleu laideron. On mangeait des œufs à la coque et du mouron. Un soir, tu me sacras poète, blond laideron. Descends ici, que je te fouette en mon giron. J'ai dégueulé ta bandoline, noir laideron. Tu couperais ma mandoline au fil du front. Pouah, mes salives desséchées, roux laideron, infectent encore les tranchées de ton sein rond. Ô mes petites amoureuses que je vous hais, plaquez de fouffe douloureuse vos tétons laids, piétinez mes vieilles terrines de sentiments. Hop donc, soyez-moi ballerine pour un moment. Vos omoplates se déboîtent, ô mes amours. Une étoile à vos reins qui boitent, tournez vos tours. Et c'est pourtant pour ces éclanches que j'ai rimé. Je voudrais vous casser les hanches d'avoir aimé. Fade amas d'étoiles ratées, comblez les coins. Vous crèverez en Dieu, battez d'ignobles soins. Sous les lunes particulières, au piala rond, entrechoquez vos genouillères, mes laiderons. Arthur Rimbaud, Chant de guerre parisien. Le printemps est évident, car du cœur des propriétés vertes, le vol de Thiers et de Picard tient ses splendeurs grandes ouvertes. Ô mai, quel délirant Cunu, Sèvres, Meudon, Bagneux, Asnières, écoutez donc les bienvenus semer les choses printanières. Ils ont shako, sabre et tam-tam, non la vieille boîte à bougies, et des yoles qui n'ont jam-jam, fendent le lac aux yeux rougis. Plus que jamais nous bambochons quand arrivent sur nos tanières crouler les jaunes cabochons dans des aubes particulières. Thiers et Picard sont des Eros, des enleveurs d'héliotropes. Au pétrole ils font des coraux, voici anneautés leurs tropes. Ils sont familiers du grand truc, et couchés dans les glaïeuls, Favre fait son sillement aqueduc et ses reniflements à poivre. La grande ville a le pavé chaud, malgré vos douches de pétrole, et décidément, il nous faut vous secouer dans votre rôle.
et les ruraux qui se prélassent dans de longs accroupissements entendront des rameaux qui cassent parmi les rouges froissements.
Arthur Rimbaud. Les sœurs de charité. Le jeune homme dont l'œil est brillant, la peau brune, le beau corps de 20 ans, qui devrait aller nu, écu, le front cerclé de cuivre, sous la lune adorée, dans la Perse, un génie inconnu, impétueux, avec des douceurs virginales et noires, fier de ses premiers entêtements, pareil aux jeunes mères, pleurs de nuits estivales qui se retournent sur des lits de diamants. Le jeune homme, devant les laideurs de ce monde, tressaille dans son cœur largement irrité et plein de la blessure éternelle et profonde, se prend à désirer sa sœur de charité. Mais, ô femme, monceau d'entrailles, pitié douce, tu n'es jamais la sœur de charité, jamais. Ni regard noir, ni ventre où dort une ombre rousse, ni doigts légers, ni seins splendidement formés. Aveugle irréveillé aux immenses prunelles, tout notre embrassement n'est qu'une question. C'est toi qui pends à nous, porteuse de mamelles, nous te berçons, charmante et grave passion. Tes haines, tes torpeurs fixes, tes défaillances et les brutalités souffertes autrefois, tu nous rends tout, ô nuit pourtant sans malveillance, comme un excès de sang épanché tous les mois. Quand la femme, portée un instant, l'épouvante, amour, appel de vie et chanson d'action, viennent la muse verte et la justice ardente le déchirer de leur auguste obsession. Ah, sans cesse altérée des splendeurs et des calmes, délaissée des deux sœurs implacables, geignant avec tendresse après la science aux bras halmes, il porte à la nature en fleurs son front saignant. Mais la noire alchimie et les saintes études répugnent aux blessés, sombres savants d'orgueil. Il sent marcher sur lui d'atroces solitudes. Alors, et toujours beau, sans dégoût du cercueil, qu'il croit aux vastes fins, rêves ou promenades immenses, à travers les nuits de vérité, et t'appelle en son âme et ses membres malades. Ô mort mystérieuse, ô sœur de charité.
Arthur Rimbaud, dans les poésies, un poème sans nom. Le juste restait droit sur ses hanches solides. Un rayon lui dorait l'épaule. Des sueurs me prirent. Tu veux voir rutiler les bolides et, debout, écouter bourdonner les flueurs d'astres lactés et les essaims d'astéroïdes? Par des farces de nuit ton front est épié. Ô juste, il faut gagner un toit. Dis ta prière, la bouche dans ton drap doucement expiée,
et si quelque égaré choque ton ostière, dis, frère, va plus loin, je suis estropié. Et le juste restait debout, dans l'épouvante bleuâtre des gazons, après le soleil mort. Alors, mettrais-tu tes genouillères en vente, ô vieillard, pèlerin sacré, barde d'Armor, pleureur des oliviers, main que la pitié gante, barbe de la famille et point de la cité, croyant très doux, ô cœur tombé dans les calices, majestés et vertus, amour et cécité, juste, plus bête et plus dégoûtant que les lys, je suis celui qui souffre et qui s'est révolté. Et ça me fait pleurer sur mon ventre, ô stupide, et bien rire, l'espoir fameux de ton pardon. Je suis maudit, tu sais, je suis saoul, fou, livide, ce que tu veux, mais va te coucher, voyons donc, juste. Je ne veux rien à ton cerveau torpide. C'est toi le juste, enfin, le juste. C'est assez. C'est vrai que ta tendresse et ta raison sereine reniflent dans la nuit comme des cétacés, que tu te fais proscrire et dégoises des traînes sur d'effroyables becs de canne fracassés. Et c'est toi, l'œil de Dieu, le lâche, quand les plantes froides des pieds divins passeraient sur mon cou, tu es lâche. Ô ton front qui fourmille de lente, Socrate et Jésus, saints et justes, dégoût. Respectez le maudit suprême aux nuits sanglantes. J'avais crié cela sur la terre, et la nuit, calme et blanche, occupait les cieux. Pendant ma fièvre, je relevais mon front, le fantôme avait fui, emportant l'ironie atroce de ma lèvre. Vent nocturne, venez au maudit, parlez-lui. Cependant que, silencieux sous les pilastres d'azur, allongeant les comètes et les nœuds d'univers, remuement énorme sans désastre, l'ordre, éternel veilleur, rame aux cieux lumineux et de sa drague en feu, laisse filer les astres. Ah, qu'il s'en aille, lui, la gorge cravatée de honte, ruminant toujours mon ennui, doux comme le sucre sur la denture gâtée, telle que la chienne après l'assaut des fiers toutous, léchant son flanc d'où pend une entraille emportée. Qu'ils disent charités crasseuses et progrès. J'exècre tous ces yeux de chinois à bedaine pour qui chantent « Nana » comme un tas d'enfants près de mourir, idiots doux aux chansons soudaines, ô juste, nous chirons dans vos ventres de grès. Arthur Rimbaud, Les Corbeaux. Seigneur, quand froide est la prairie, quand dans les hameaux abattus, les longs angélus se sont tus, sur la nature défleurie, faites s'abattre des grands cieux, les chers corbeaux délicieux. Armée étrange aux cris sévères, les vents froids attaquent vos nids, vous, le long des fleuves jaunis, sur les routes, aux vieux calvaires, sur les fossés et sur les trous, dispersez-vous, ralliez-vous. Par milliers sur les champs de France, où dorment des morts d'avant-hier, tournoyez, n'est-ce pas, l'hiver, pour que chaque passant repense. Sois donc le crieur du devoir, ô notre funèbre oiseau noir. Mais, saint du ciel, en haut du chêne, mât perdu, dans le soir charmé, laissez les fauvettes de mai. Pour ceux qu'au fond du bois enchaîne, dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir, la défaite sans avenir.
Arthur Rimbaud. Dans les vers nouveaux. Qu'est-ce pour nous, mon cœur, que les nappes de sang et de braise et mille meurtres et les longs cris de rage, sanglots de tout enfer renversant tout ordre, et l'aquilon encore sur les débris, et toute vengeance? Rien? Mais si, tout encore, nous la voulons, industriel, prince, sénat, périssez, puissance, justice, histoire, à bas, ça nous est dû. Le sang, le sang, la flamme d'or. Tout à la guerre, à la vengeance, à la terreur, mon esprit. Tournons dans la morsure, ah, passez, république de ce monde. Des empereurs, des régiments, des colons, des peuples, assez. Qui remuerait les tourbillons de feu furieux que nous et ceux que nous nous imaginons frères? À nous, romanesques amis, ça va nous plaire. Jamais nous ne travaillerons au flot de feu. Europe, Asie, Amérique, disparaissez. Notre marche vengeresse a tout occupé. Cités et campagnes, nous serons écrasés, les volcans sauteront, et l'océan frappé. Oh, mes amis, mon cœur, c'est sûr, ils sont des frères, noirs inconnus. Si nous allions, allons, allons. Oh malheur, je me sens frémir, la vieille terre, sur moi, de plus en plus à vous, la terre fond. Ce n'est rien, j'y suis, toujours. Arthur Rimbaud. Bonne pensée du matin. À 4 heures du matin, l'été, le sommeil d'amour dure encore. Sous les bosquets, l'aube évapore l'odeur du soir fêté. Mais là-bas, dans l'immense chantier, vers le soleil des Hespérides, en bras de chemise, les charpentiers déjà s'agitent, dans leur désert de mousse, tranquille, ils préparent les lambris précieux où la richesse de la ville rira sous de faux cieux. Ah, pour ces ouvriers charmants, sujets d'un roi de Babylone, Vénus laisse un peu les amants, dont l'âme est en couronne. Ô reine des bergers, porte aux travailleurs l'eau de vie, pour que leur force soit en paix, en attendant le bain dans la mer à midi. À une raison, un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie. Un pas de toi, c'est la levée des nouveaux hommes et leur en marche. Ta tête se détourne, le nouvel amour. Ta tête se retourne, le nouvel amour. Change nos lots, crible les fléaux, à commencer par le temps. Te chantent ces enfants. Élève n'importe où la substance de nos fortunes et de nos vœux. On t'en prie. Arrivé de toujours, qui t'en ira partout.
Aube. J'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut dans le sentier, déjà empli de frais et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je ris au wasserfall blond qui se chevela à travers les sapins, à la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors je levai un à un les voiles, dans l'allée, en agitant les bras, par la plaine où je l'ai dénoncé au coq. À la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée, avec ses voiles amassées, et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi.
Ville. Ce sont des villes. C'est un peuple pour qui se sont montés ces Allegheny et ces Libans de rêve. Des chalets de cristal et de bois qui se meuvent sur des rails et des poulies invisibles. Les vieux cratères ceints de colosses et de palmiers de cuivre rugissent mélodieusement dans les feux. Des fêtes amoureuses sonnent sur les canaux pendus derrière les chalets. La chasse des carillons crie dans les gorges. Des corporations de chanteurs géants accourent dans des vêtements et des oriflammes éclatants comme la lumière des cimes. Sur les plateformes, au milieu des gouffres, les Rolands sonnent leur bravoure. sur les passerelles de l'abîme et les toits des auberges, l'ardeur du ciel pavoise les mâts, l'écroulement des apothéoses rejoint les champs des hauteurs où les centauresses séraphiques évoluent parmi les avalanches. Au-dessus du niveau des plus hautes crêtes, une mer troublée par la naissance éternelle de Vénus, chargée de flottes orphéoniques et de la rumeur des perles et des conques précieuses, la mer s'assombrit parfois avec des éclats mortels. Sur les versants des moissons de fleurs grandes comme nos armes et nos coupes mugissent des cortèges de mâbes en robes rousses, opalines, montent des ravines. Là-haut, les pieds dans la cascade et les ronces, les cerfs, têtes dianes, les bacchantes des banlieues sanglotent et la lune brûle et hurle. Vénus entre dans les cavernes des forgerons et des ermites. Des groupes de beffroi chantent les idées des peuples. Des châteaux bâtis en noces sort la musique inconnue. Toutes les légendes évoluent et les élans se ruent dans les bourgs. Le paradis des orages s'effondre. Les sauvages dansent sans cesse la fête de la nuit. Et une heure, je suis descendu dans le mouvement d'un boulevard de Bagdad où des compagnies ont chanté la joie du travail nouveau sous une brise épaisse circulant sans pouvoir éluder les fabuleux fantômes des monts où l'on a dû se retrouver. Quel bon bras, quelle belle heure me rendront cette région d'où viennent mes sommeils et mes moindres mouvements.
Métropolitain. Du détroit d'Indigo aux mers d'Océan, sur le sable rose et orange qu'a lavé le ciel vineux, viennent de monter et de se croiser des boulevards de cristal, habités un continent par de jeunes familles pauvres qui s'alimentent chez les fruitiers. Rien de riche. La ville. Du désert de bitume fuit droit en déroute avec les nappes de brumes échelonnées en bandes affreuses au ciel qui se recourbe, se recule et descend, formé de la plus sinistre fumée noire que puisse faire l'océan en deuil. Les casques, les roues, les barques, les croupes, la bataille. Lève la tête, ce pont de bois, arqué, les derniers potagers de Samarie, ces masques enluminés sous la lanterne fouettée par la nuit froide, l'ondine niaise à la robe bruyante au bas de la rivière, ces crânes lumineux dans les plans de pois et les autres fantasmagories, la campagne. Des routes bordées de grilles et de murs, contenant à peine leurs bosquets, et les atroces fleurs, qu'on appellerait cœurs et sœurs, damas d'anans de longueur, possession de féeriques aristocraties ultra-rhénanes, japonaises, guaranies, propres encore à recevoir la musique des anciens. Et il y a des auberges qui pour toujours n'ouvrent déjà plus. Il y a des princesses. Et si tu n'es pas trop accablé, l'étude des astres, le ciel. Le matin ou avec elle, vous vous débattîtes parmi les éclats de neige, les lèvres vertes, les glaces, les drapeaux noirs et les rayons bleus et les parfums pourpres du soleil des pôles. Ta force.
Soir historique. En quelques soirs, par exemple, que se trouve le touriste naïf, retiré de nos horreurs économiques, la main d'un maître anime le clavecin des prés. On joue aux cartes au fond de l'étang, miroir évocateur des reines et des mignonnes, on a les saintes, les voiles et les fils d'harmonie et les chromatismes légendaires sur le couchant. Il frissonne au passage des chasses et des hordes. La comédie goûte sur les tréteaux de gazon et l'embarras des pauvres et des faibles sur ses plans stupides. À sa vision esclave, l'Allemagne s'échafaude vers des lunes. Les déserts tartares s'éclairent, les révoltes anciennes grouillent dans le centre du céleste empire, par les escaliers et les fauteuils de roi, un petit monde blême et plat, Afrique et Occident, va s'édifier. Puis un balai de mer et de nuit connu, une chimie sans valeur, et des mélodies impossibles. La même magie bourgeoise à tous les points où la malle nous déposera. Le plus élémentaire physicien sent qu'il n'est plus possible de se soumettre à cette atmosphère personnelle, brume de remords physiques dont la constatation est déjà une affliction. Non, le moment de l'étuve, des mers enlevées, des embrasements souterrains, de la planète emportée et des exterminations conséquentes, certitude si peu malignement indiquée dans la Bible et par les nornes, et qu'il sera donné à l'être sérieux de surveiller. Cependant, ce ne sera point un effet de légende.
Arthur Rimbaud. Conte. Un prince était vexé de ne s'être employé jamais qu'à la perfection des générosités vulgaires. Il prévoyait d'étonnantes révolutions de l'amour et soupçonnait ses femmes de pouvoir mieux que cette complaisance agrémentée de ciel et de luxe. Il voulait voir la vérité, l'heure du désir et de la satisfaction essentielle. Que ce fût ou non une aberration de piété, il voulut. Il possédait au moins un assez large pouvoir humain. Toutes les femmes qu'il avait connues furent assassinées. Quel saccage du jardin de la beauté! Sous le sabre, elles le bénirent. Il n'en commanda point de nouvelles. Les femmes réapparurent. Il tua tous ceux qui le suivaient, après la chasse ou les libations. Tous le suivaient. Il s'amusa à égorger les bêtes de luxe. Il fit flamber les palais. Il se ruait sur les gens et les taillait en pièces. La foule, les toits d'or, les belles bêtes existaient encore. Peut-on s'extasier dans la destruction, se rajeunir par la cruauté? Le peuple ne murmura pas. Personne n'offrit le concours de ses vues.
Un soir, il galopait fièrement. Un génie apparut, d'une beauté ineffable, inavouable même. De sa physionomie et de son maintien ressortait la promesse d'un amour multiple et complexe, d'un bonheur indicible, insupportable même. Le prince et le génie s'anéantirent probablement dans la santé essentielle. Comment n'aurait-il pas pu en mourir? Ensemble donc, ils moururent. Mais ce prince décéda dans son palais, à un âge ordinaire. Le prince était le génie. Le génie était le prince. La musique savante manque à notre désir.
Arthur Rimbaud. Being beauteous. Devant une neige, un être de beauté, de haute taille. Des sifflements de mort et des cercles de musique sourdes font monter, s'élargir et trembler comme un spectre, ce corps adoré. Des blessures écarlates et noires éclatent dans les chairs superbes. Les couleurs propres de la vie se foncent, dansent et se dégagent autour de la vision, sur le chantier. Et les frissons s'élèvent et grondent, et la saveur forcenée de ces effets se chargeant avec les sifflements mortels et les rauques musiques que le monde, loin derrière nous, lance sur notre mer de beauté. Elle recule, elle se dresse. Oh ! Nos eaux sont revêtues d'un nouveau corps amoureux. Oh, la face cendrée, les cuissons de crin, les bras de cristal, le canon sur lequel je dois m'abattre à travers la mêlée des arbres et de l'air léger.
Ville. Je suis un éphémère et point trop mécontent citoyen d'une métropole crue, moderne, parce que tout goût connu a été éludé dans les ameublements et l'extérieur des maisons, aussi bien que dans le plan de la ville. Ici, vous ne signaleriez les traces d'aucun monument de superstition. La morale et la langue sont réduites à leur plus simple expression, enfin. Ces millions de gens qui n'ont pas besoin de se connaître amènent si pareillement l'éducation, le métier et la vieillesse, que ce cours de vie doit être plusieurs fois moins long que ce qu'une statistique folle trouve pour les peuples du continent. Aussi, comme de ma fenêtre, je vois des spectres nouveaux roulant à travers l'épaisse et éternelle fumée de charbon, notre ombre des bois, notre nuit d'été, des érinises nouvelles devant mon cottage qui est ma patrie et tout mon cœur, puisque tout ici ressemble à ceci, la mort sans pleurs, notre active fille et servante, un amour désespéré et un joli crime piaulant dans la boue de la rue.
Arthur Rimbaud, enfance. Cette idole, yeux noirs et crins jaunes, sans parents ni cour, plus noble que la fable, mexicaine et flamande, son domaine, azur et verdure insolent, court sur des plages nommées par des vagues sans vaisseau, de noms férocement grecs, slaves, celtiques. À la lisière de la forêt, les fleurs de rêve teintent, éclatent, éclairent, la fille à lèvres d'orange, les genoux croisés dans le clair déluge qui sourd des prés, nudité combre, traversée habille les arcs-en-ciel, la flore, la mer. Dame qui tournoie sur les terrasses voisines de la mer, enfantes et géantes, superbes noires dans la mousse vert de gris, bijoux debout sur le sol gras des bosquets et des jardinets dégelés, jeune mère et grande sœur au regard plein de pèlerinage, sultane, princesse de démarche et de costumes tyranniques, petites étrangères et personnes doucement malheureuses. Quel ennui, l'heure du cher corps et cher cœur. C'est elle, la petite morte, derrière les rosiers. La jeune maman trépassée descend le perron. La calèche du cousin crie sur le sable. Le petit frère, il est aux Indes, là, devant le couchant, sur le pré d'œillet. Les vieux qu'on a enterrés tout droit dans le rempart aux giroflées. L'essaim des feuilles d'or entoure la maison du général. Ils sont dans le midi. On suit la route rouge pour arriver à l'auberge vide. Le château est à vendre. Les persiennes sont détachées. Le curé aura emporté la clé de l'église. Autour du parc, les loges des gardes sont inhabitées. Les palissades sont si hautes qu'on ne voit que les cimes bruissantes. D'ailleurs, il n'y a rien à voir là-dedans. Les prés remontent aux hameaux sans coque, sans enclume. L'écluse est levée. Oh, les calvaires et les moulins du désert, les îles et les meules. Des fleurs magiques bourdonnaient, les talus le berçaient. Des bêtes d'une élégance fabuleuse circulaient. Les nuées s'amassaient sur la haute mer faite d'une éternité de chaudes larmes. Au bois, il y a un oiseau. Son chant vous arrête et vous fait rougir. Il y a une horloge qui ne sonne pas. Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches. Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte. Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis ou qui descend le sentier en courant, en rubané. Il y a une troupe de petits comédiens en costume aperçus sur la route à travers la lisière du bois. Il y a enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse. Je suis le saint, en prière sur la terrasse. Comme les bêtes pacifiques paissent jusqu'à la mer de Palestine, je suis le savant au fauteuil sombre. Les branches et la pluie se jettent à la croisée de la bibliothèque. Je suis le piéton de la grande route par les bois nains. La rumeur des écluses couvre mes pas. Je vois longtemps la mélancolique lessive d'or du couchant. Je serais bien l'enfant abandonné sur la jetée, parti à la haute mer, le petit valet suivant l'allée dont le front touche le ciel. Les sentiers sont âpres, les monticules se couvrent de genêts, l'air est immobile, que les oiseaux et les sources sont loin. Ce ne peut être que la fin du monde, en avançant. Qu'on me loue enfin ce tombeau, blanchi à la chaux avec les lignes du ciment en relief, très loin sous terre. Je m'accoude à la table, la lampe éclaire très vivement ces journaux que je suis idiot de relire, ces livres sans intérêt. À une distance énorme au-dessus de mon salon souterrain, les maisons s'implantent, les brumes s'assemblent, la boue est rouge ou noire. Ville monstrueuse, nuit sans fin. Moins haut sont des égouts, aux côtés, rien que l'épaisseur du globe. Peut-être les gouffres d'azur, des puits de feu. C'est peut-être sur ces plans que se rencontrent lune et comète, mer et fable. Aux heures d'amertume, je m'imagine des boules de saphir, de métal. Je suis maître du silence. Pourquoi une apparence de soupirail blêmirait-elle au coin de la voûte ?
Vie. Oh, les énormes avenues du pays saint, les terrasses du temple. Qu'a-t-on fait du brahmane qui m'expliqua les proverbes ? D'alors, de là-bas, je vois encore même les vieilles. Je me souviens des heures d'argent et de soleil vers les fleuves, la main de la campagne sur mon épaule, et de nos caresses debout dans les plaines poivrées. Un envol de pigeons écarlates tonne autour de ma pensée. Exilé ici, j'ai eu une scène où jouaient les chefs-d'œuvre dramatiques de toutes les littératures. Je vous indiquerai les richesses inouïes. J'observe l'histoire des trésors que vous trouvâtes. Je vois la suite. Ma sagesse est aussi dédaignée que le chaos. Qu'est mon néant auprès de la stupeur qui vous attend ? Je suis un inventeur, bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont précédé, un musicien même, qui a trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. À présent, gentilhomme, d'une campagne aigre, au ciel sobre, j'essaye de m'émouvoir au souvenir de l'enfance mendiante, de l'apprentissage ou de l'arrivée en sabots, des polémiques, des 5 ou 6 veuvages et quelques noces où ma forte tête m'empêcha de monter au diapason des camarades. Je ne regrette pas ma vieille part de gaieté divine. L'air sobre de cette aigre campagne alimente fort activement mon atroce scepticisme. Mais, comme ce scepticisme ne peut désormais être mis en œuvre, et que d'ailleurs je suis dévoué à un trouble nouveau, j'attends de devenir un très méchant fou.
Dans un grenier où je fus enfermé à 12 ans, j'ai connu le monde. J'ai illustré la comédie humaine. Dans un cellier, j'ai appris l'histoire. À quelques fêtes de nuit dans une cité du Nord, j'ai rencontré toutes les femmes des anciens peintres. Dans un vieux passage à Paris, on m'a enseigné les sciences classiques. Dans une magnifique demeure cernée par l'Orient entier, j'ai accompli mon immense œuvre et passé mon illustre retraite. J'ai brassé mon sang, mon devoir m'est remis. Il ne faut même plus songer à cela. Je suis réellement d'outre-tombe et pas de commission.
Solde. À vendre ce que les Juifs n'ont pas vendu, ce que noblesse ni crime n'ont goûté, ce qu'ignore l'amour maudit et la probité infernale des masses, ce que le temps ni la science n'ont pas à reconnaître. Les voir reconstituer, l'éveil fraternel de toutes les énergies chorales et orchestrales et leurs applications instantanées, l'occasion unique de dégager nos sens, à vendre les corps sans prix, hors de toute race, de tout monde, de tout sexe, de toute descendance, les richesses jaillissant à chaque démarche, solde de diamants sans contrôle, à vendre l'anarchie pour les masses, la satisfaction irrépressible pour les amateurs supérieurs, la mort atroce pour les fidèles et les amants, à vendre les habitations et les migrations, sports, féeries et conforts parfaits, et le bruit, le mouvement et l'avenir qu'ils font. À vendre les applications de calcul et les sauts d'harmonie inouïs, les trouvailles et les termes non soupçonnés, possession immédiate, élan insensé et infini aux splendeurs invisibles, aux délices insensibles et ses secrets affolants pour chaque vice et sa gaieté effrayante pour la foule. À vendre les corps, les voix, l'immense opulence inquestionnable, ce qu'on ne vendra jamais. Les vendeurs ne sont pas à bout de solde. Les voyageurs n'ont pas à rendre leur commission de sitôt.
Une saison en enfer. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice, je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leurs fusils. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable. Le sang, Le malheur a été mon Dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime. Et j'ai joué de bons tours à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit. La charité est cette clé. Cette inspiration prouve que j'ai rêvé. Tu resteras hyène, etc. se récrit le démon qui me couronna de si aimables pavots. Gagne la mort avec tous tes appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. Oh, j'en ai trop pris. Mais, cher Satan, je vous en conjure, une prunelle moins irritée, et en attendant les quelques petites lâchetés en retard, vous qui aimez dans l'écrivain l'absence des facultés descriptives ou instructives, je vous détache ces quelques hideux feuillets de mon carnet de damnés. Mauvais sang. J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu, blanc, la cervelle étroite et la maladresse dans la lutte. Je trouve mon habillement aussi barbare que le leur, mais je ne beurre pas ma chevelure. Les Gaulois étaient les écorcheurs de bêtes, les brûleurs d'herbes, les plus ineptes de leur temps. D'eux, j'ai l'idolâtrie et l'amour du sacrilège. Oh, tous les vices, colère, luxure, magnifique la luxure, surtout mensonge et paresse. J'ai horreur de tous les métiers, maîtres et ouvriers, tous paysans, ignobles. La main à plume vaut la main à charrue. Quel siècle la main! Je n'aurai jamais ma main. Après, la domesticité mène trop loin. L'honnêteté de la mendicité me navre. Les criminels dégoûtent comme les châtrés. Moi, je suis intact, et ça m'est égal. Mais qui a fait ma langue perfide tellement qu'elle ait guidé et sauvegardé jusqu'ici ma paresse, sans me servir pour vivre même de mon corps, et plus oisif que le crapaud. J'ai vécu partout, pas une famille d'Europe que je ne connaisse. J'entends des familles comme la mienne, qui tiennent tout de la Déclaration des droits de l'homme. J'ai connu chaque fils de famille. Si j'avais des antécédents à un point quelconque de l'histoire de France, mais non, rien. Il m'est bien évident que j'ai toujours été race inférieure. Je ne puis comprendre la révolte. Ma race ne se souleva jamais que pour piller, tels les loups à la bête qu'ils n'ont pas tués. Je me rappelle l'histoire de la France, fille aînée de l'Église. J'aurais fait, manant, le voyage de Terre Sainte. J'ai dans la tête des routes dans les plaines souabes, des vues de Byzance, des remparts de Solyme, le culte de Marie. L'attendrissement sur le crucifié s'éveille en moi parmi mille féeries profanes. Je suis assis, lépreux, sur les peaux cassées et les orties, au pied d'un mur rongé par le soleil. Plus tard, reître, j'aurai bivaqué sous les nuits d'Allemagne. Ah, encore, je danse le sabbat dans une rouge clairière avec des vieilles et des enfants. Je ne me souviens pas plus loin que cette terre-ci et le christianisme. Je n'en finirai pas de me revoir dans ce passé, mais toujours seul, sans famille. Même, quelle langue parlais-je? Je ne me vois jamais dans les conseils du Christ, ni dans les conseils des seigneurs, représentants du Christ. Qu'étais-je au siècle dernier? Je ne me retrouve qu'aujourd'hui. Plus de vagabonds, plus de guerres vagues. La race inférieure a tout couvert. Le peuple, comme on dit, la raison, la nation et la science. Oh, la science! On a tout repris. Pour le corps et pour l'âme, le viatique. On a la médecine et la philosophie, les remèdes de bonnes femmes et les chansons populaires arrangées, et les divertissements des princes et les jeux qu'ils interdisaient. Géographie, cosmographie, mécanique, chimie, la science, la nouvelle noblesse, le progrès. Le monde marche. Pourquoi ne tournerait-il pas? C'est la vision des nombres. Nous allons à l'esprit. C'est très certain. C'est oracle, ce que je dis. Je comprends. Et ne sachant m'expliquer sans paroles païennes, je voudrais me taire. Le sang païen revient. L'esprit est proche. Pourquoi Christ ne m'aide-t-il pas en donnant à mon âme noblesse et liberté? Hélas, l'Évangile a passé. L'Évangile, l'Évangile. J'attends Dieu avec gourmandise. Je suis de race inférieure de toute éternité. Me voici sur la plage armoricaine, que les villes s'allument dans le soir. Ma journée est faite, je quitte l'Europe. L'air marin brûlera mes poumons, les climats perdus me tanneront. Nager, broyer l'herbe, chasser, fumer surtout, boire des liqueurs fortes comme du métal bouillant, comme faisaient ses chers ancêtres, autour des feux. Je reviendrai avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or, je serai oisif et brutal. Les femmes soignent ces féroces infirmes, retour des pays chauds. Je serai mêlé aux affaires politiques. Sauvé. Maintenant, je suis maudit, j'ai horreur de la patrie. Le meilleur, c'est un sommeil bien ivre sur la grève. On ne part pas, reprenons les chemins d'ici, chargés de mon vice, le vice qui a poussé ses racines de souffrance à mon côté, dès l'âge de raison qui monte au ciel, me bat. Me renverse, me traîne, la dernière innocence et la dernière timidité. C'est dit, ne pas porter au monde mes dégoûts et mes trahisons. Allons, la marche, le fardeau, le désert, l'ennui. Et la colère. À qui me louer? Quelle bête faut-il adorer? Quelle sainte image attaque-t-on? Quel cœur briserai-je? Quel mensonge dois-je tenir? Dans quel sang marcher? Plutôt se garder de la justice. La vie dure. L'abrutissement simple, soulever le poing desséché, le couvercle du cercueil, s'asseoir, s'étouffer. Ainsi, point de vieillesse, ni de danger. La terreur n'est pas française. Ah, je suis tellement délaissé que j'offre à n'importe quelle divine image des élans vers la perfection. Ô mon abnégation, ô ma charité merveilleuse, ici-bas pourtant, de profundis domine, suis-je bête? Encore tout enfant, j'admirais le forçat intraitable sur qui se referme toujours le bagne. Je visitais les auberges et les garnis qu'il aurait sacrés par son séjour. Je voyais, avec son idée, le ciel bleu et le travail fleuri de la campagne. Je flairais sa fatalité dans les villes. Il avait plus de force qu'un saint, plus de bon sens qu'un voyageur, et lui, lui seul, pour témoin de sa gloire et de sa raison. Sur les routes, par des nuits d'hiver, sans gîte, sans habit, sans pain, une voix étreignait mon cœur gelé. Faiblesse ou force? Te voilà, c'est la force. Tu ne sais ni où tu vas, ni pourquoi tu vas. Entre partout, réponds à tout. On ne te tuera pas plus que si tu étais cadavre. Au matin, j'avais le regard si perdu et la contenance si morte que ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu. Dans les villes, la boue m'apparaissait soudainement rouge et noire, comme une glace quand la lampe circule dans la chambre voisine, comme un trésor dans la forêt. « Bonne chance !» criai-je, et je voyais une mer de flammes et de fumée au ciel, et à gauche, à droite, toutes les richesses flambant comme un milliard de tonnerres. Mais l'orgie et la camaraderie des femmes m'étaient interdites, pas même un compagnon. Je me voyais devant une foule exaspérée en face du peloton d'exécution, pleurant du malheur qu'il n'ait pu comprendre, et pardonnant, comme Jeanne d'Arc, prêtre, professeur, maître, vous vous trompez en me livrant à la justice. Je n'ai jamais été de ce peuple-ci. Je n'ai jamais été chrétien. Je suis de la race qui chantait dans le supplice. Je ne comprends pas les lois. Je n'ai pas le sens moral. Je suis une brute. Vous vous trompez. Oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière. Je suis une bête, un nègre. Mais je puis être sauvé. Vous êtes de faux nègres, vous maniaques, féroces, avares, marchands, tu es nègre, magistrat, tu es nègre, général, tu es nègre, empereur, vieille démangeaison, tu es nègre, tu as bu d'une liqueur non taxée de la fabrique de Satan. Ce peuple est inspiré par la fièvre et le cancer. Infirmes et vieillards sont tellement respectables qu'ils demandent à être bouillis. Le plus malin est de quitter ce continent où la folie rôde pour pourvoir d'otages ces misérables. J'entre au vrai royaume des enfants de Cham. Connais-je encore la nature? Me connais-je? Plus de mots. J'ensevelis les morts dans mon ventre. Cris, tambour, danse, 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 danse. Je ne vois même pas l'heure où, les blancs débarquant, je tomberai au néant. Faim, soif, cris, danse, 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 danse. Les blancs débarquent. Le canon,
Il faut se soumettre au baptême, s'habiller, travailler.
J'ai reçu au cœur le coup de la grâce.
Ah ! Je ne l'avais pas prévu. Je n'ai point fait le mal.
Les jours vont m'être légers. Le repentir me sera épargné. Je n'aurai pas eu les tourments de l'âme presque morte au bien, où remonte la lumière sévère comme les cierges funéraires. Le sort du fils de famille, cercueil prématuré couvert de limpides larmes. Sans doute la débauche est bête. Le vice est bête. Il faut jeter la pourriture à l'écart. Mais l'horloge ne sera pas arrivée à ne plus sonner que l'heure de la pure douleur. Vais-je être enlevé comme un enfant pour jouer au paradis, dans l'oubli de tout le malheur? Vite, est-il d'autres vies? Le sommeil dans la richesse est impossible. La richesse a toujours été bien publique. L'amour divin seul octroie les clés de la science. Je vois que la nature n'est qu'un spectacle de bonté. Adieu, chimère, idéal, erreur. Le chant raisonnable des anges s'élève du navire sauveur. C'est l'amour divin. Deux amours. Je puis mourir de l'amour terrestre, mourir de dévouement. J'ai laissé des âmes dont la peine s'accroîtra de mon départ. Vous me choisissez parmi les naufragés. Ceux qui restent, sont-ils pas mes amis? Sauvez-les. La raison m'est née. Le monde est bon. Je bénirai la vie. J'aimerai mes frères. Ce ne sont plus des promesses d'enfance, ni l'espoir d'échapper à la vieillesse et à la mort. Dieu fait ma force. Et je loue Dieu. L'ennui n'est plus mon amour. Les rages, les débauches, la folie, dont je sais tous les élans et les désastres, tout mon fardeau est déposé. À pression sans vertige, l'étendue de mon innocence. Je ne serai plus capable de demander le réconfort d'une bastonnade. Je ne me crois pas embarqué pour une noce avec Jésus-Christ pour beau-père. Je ne suis pas prisonnier de ma raison. J'ai dit Dieu. Je veux la liberté dans le salut. Comment la poursuivre? Les goûts frivoles m'ont quitté. Plus besoin de dévouement, ni d'amour divin. Je ne regrette pas le siècle des cœurs sensibles. Chacun a sa raison, mépris et charité. Je retiens ma place au sommet de cette angélique échelle de bon sens. Quant au bonheur établi, domestique ou non, non, je ne peux pas. Je suis trop dissipé, trop faible. La vie fleurit par le travail, vieille vérité. Moi, ma vie n'est pas assez pesante. Elle s'envole et flotte loin, au-dessus de l'action, ce cher point du monde. Comme je deviens vieille fille, à manquer du courage,
d'aimer la mort. Si Dieu m'accordait le calme céleste, aérien, la prière, comme les anciens saints, les saints, des forts, les anachorètes, des artistes, comme il n'en faut plus. Farce continuelle. Mon innocence me ferait pleurer. La vie est la farce amenée par tous. Assez, voici la punition, en marche. Ah, les poumons brûlent, les tempes grondent, la nuit roule dans mes yeux, par ce soleil, le cœur, les membres. Où va-t-on? Au combat? Je suis faible, les autres avancent, les outils, les armes, le temps. Feu, feu sur moi, là, où je me rends. Lâche, je me tue, je me jette au pied des chevaux. Ah, je m'y habituerai. Ce serait la vie française, le sentier de l'honneur. Nuit de l'enfer. J'ai avalé une fameuse gorgée de poison. Trois fois béni soit le conseil qui m'est arrivé. Les entrailles me brûlent. La violence du venin tord mes membres, me rend difforme, me terrasse. Je meurs de soif, j'étouffe, je ne puis crier. C'est l'enfer, l'éternelle peine. Voyez comme le feu se relève. Je brûle comme il faut. Va, démon. J'avais entrevu la conversion au bien et au bonheur, le salut. Puis-je décrire la vision? L'air de l'enfer ne souffre pas les hymnes. C'était des millions de créatures charmantes, un suave concert spirituel, la force et la paix, les nobles ambitions, que sais-je, les nobles ambitions. Et c'est encore la vie, si la damnation est éternelle. Un homme qui veut se mutiler est bien damné, n'est-ce pas? Je me crois en enfer, donc j'y suis. C'est l'exécution du catéchisme. Je suis esclave de mon baptême. Parents, vous avez fait mon malheur et vous avez fait le vôtre. Pauvre innocent, l'enfer ne peut attaquer les païens. C'est la vie encore. Plus tard, les délices de la damnation seront plus profondes. Un crime, vite, que je tombe au néant, de par la loi humaine. Tais-toi, mais tais-toi. C'est la honte, le reproche ici. Satan qui dit que le feu est ignoble, que ma colère est affreusement sotte. Assez! Les erreurs qu'on me souffle, magie, parfum faux, musique puérile, et dire que je tiens la vérité, que je vois la justice. J'ai un jugement saint et arrêté. Je suis prêt pour la perfection. Orgueil. La peau de ma tête se dessèche. Pitié. Seigneur, j'ai peur. J'ai soif, si soif. Ah, l'enfance. L'herbe, la pluie, le lac sur les pierres, le clair de lune quand le clocher sonnait 12. Le diable est au clocher à cette heure. Marie, Sainte Vierge, horreur de ma bêtise. Là-bas, ne sont-ce pas des âmes honnêtes qui me veulent du bien? Venez, j'ai un oreiller sur la bouche. Elles ne m'entendent pas, ce sont des fantômes. Puis jamais personne ne pense à autrui. Qu'on n'approche pas, je sens le roussi, c'est certain. Les hallucinations sont innombrables. C'est bien ce que j'ai toujours eu. Plus de fois en l'histoire, l'oubli des principes. Je m'en tairais. Poètes et visionnaires seraient jaloux. Je suis mille fois le plus riche. Soyons avares comme la mer. Ah ça, L'horloge de la vie s'est arrêtée tout à l'heure. Je ne suis plus au monde. La théologie est sérieuse. L'enfer est certainement en bas et le ciel en haut. Extase, cauchemar, sommeil dans un nid de flammes. Que de malice dans l'attention dans la campagne. Satan, Ferdinand, court avec les graines sauvages. Jésus marche sur les ronces purpurines sans les courber. Jésus marchait sur les eaux irritées. La lanterne nous le montra debout, blanc et des tresses brunes, au flanc d'une vague d'émeraude. Je vais dévoiler tous les mystères, mystères religieux ou naturels, mort, naissance, avenir, passé, cosmogonie, néant. Je suis maître en fantasmagorie. Écoutez, j'ai tous les talents. Il n'y a personne ici, et il y a quelqu'un. Je ne voudrais pas répandre mon trésor. Veut-on des chants nègres, des danses de houris? Veut-on que je disparaisse, que je plonge à la recherche de l'anneau? Veut-on? Je ferai de l'or, des remèdes. Fiez-vous donc à moi. La foi soulage, guide, guérit. Tous, venez, même les petits-enfants, que je vous console, qu'on répande pour vous son cœur, le cœur merveilleux. Pauvres hommes, travailleurs, je ne demande pas de prière, avec votre confiance seulement, je serai heureux. Et pensons à moi. Ceci me fait peu regretter le monde. J'ai de la chance de ne pas souffrir plus. Ma vie ne fut que folie douce. C'est regrettable. Bah, faisons toutes les grimaces imaginables. Décidément, nous sommes hors du monde. Plus aucun son. Mon tact a disparu. Ah, oh, mon château, ma Saxe, mon bois de saule. Les soirs, les matins, les nuits, les jours. Suis-je là? Je devrais avoir mon enfer pour la colère, mon enfer pour l'orgueil et l'enfer de la caresse. Un concert d'enfer. Je meurs de lassitude. C'est le tombeau. Je m'en vais au vert. Horreur de l'horreur. Satan, farceur, tu veux me dissoudre avec tes charmes? Je réclame un coup de fourche, une goutte de feu. Ah, remonter à la vie, jeter les yeux sur nos difformités, et ce poison, ce baiser mille fois maudit, ma faiblesse, la cruauté du monde. Mon Dieu, pitié, cachez-moi, je me tiens trop mal. Je suis caché et je ne le suis pas. C'est le feu qui se relève avec son damné. Délire. Première partie. Vierge folle. L'époux infernal. Écoutons la confession d'un compagnon d'enfer. Ô divin époux, mon Seigneur, ne refusez pas la confession de la plus triste de vos servantes. Je suis perdu, je suis saoul, je suis impur. Quelle vie! Pardon, divin Seigneur, pardon, ah pardon, que de larmes, et que de larmes encore plus tard, j'espère. Plus tard, je connaîtrai le divin époux. Je suis née soumise à lui. L'autre peut me battre maintenant. À présent, je suis au fond du monde. Oh, mes amis, non, pas mes amis, jamais délire ni torture semblable. Est-ce bête? Ah, je souffre, je crie, je souffre vraiment. Tout pourtant m'est permis, chargé du mépris des plus méprisables cœurs. Enfin, faisons cette confidence, quitte à la répéter 20 autres fois, aussi morne, aussi insignifiante. Je suis esclave de l'époux infernal, celui qui a perdu les vierges folles. C'est bien ce démon-là. Ce n'est pas un spectre, ce n'est pas un fantôme. Mais moi qui ai perdu la sagesse, qui suis damnée et morte au monde. On ne me tuera pas. Comment vous le décrire? Je ne sais même plus parler. Je suis en deuil. Je pleure. J'ai peur. Un peu de fraîcheur, Seigneur, si vous voulez, si vous voulez bien. Je suis veuve. J'étais veuve. Mais oui, j'ai été bien sérieuse jadis, et je ne suis pas née pour devenir squelette. Lui était presque un enfant. Ses délicatesses mystérieuses m'avaient séduite. J'ai oublié tout mon devoir humain pour le suivre. Quelle vie! La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. Je vais où il va, il le faut. Et souvent il s'emporte contre moi. Moi, la pauvre âme. Le démon, c'est un démon, vous savez, ce n'est pas un homme. Il dit, je n'aime pas les femmes. L'amour est à réinventer, on le sait. Elles ne peuvent plus que vouloir une position assurée. La position gagnée, cœur et beauté, sont mis de côté. Il ne reste que froid dédain, l'aliment du mariage aujourd'hui. Ou bien je vois des femmes avec les signes du bonheur, dont moi j'aurais pu faire de bonnes camarades, dévorées tout d'abord par des brutes sensibles comme des bûchers. Je l'écoute faisant de l'infamie une gloire, de la cruauté un charme. Je suis de race lointaine. Mes pères étaient scandinaves. Ils se perçaient les côtes, buvaient leur sang. Je me ferais des entailles partout le corps. Je me tatouerais. Je veux devenir hideux comme un mongol. Tu verras. Je hurlerai dans les rues. Je veux devenir bien fou de rage. Ne me montre jamais de bijoux. Je ramperai et me tordrai sur le tapis. Ma richesse, je la voudrais tachée de sang partout. Jamais je ne travaillerai. Plusieurs nuits, son démon me saisissant, nous nous roulions, je luttais avec lui. Les nuits, souvent, ivre, il se poste dans des rues ou dans des maisons pour m'épouvanter mortellement. On me coupera vraiment le cou. Ce sera dégoûtant. Oh, ces jours où il veut marcher avec l'air du crime. Parfois il parle, en une façon de patois attendri, de la mort qui fait repentir, des malheureux qui existent certainement, des travaux pénibles, des départs qui déchirent les cœurs. Dans les bouges où nous nous enivrions, il pleurait en considérant ce qui nous entourait, bétail de la misère. Il relevait les ivrognes dans les rues noires. Il avait la pitié d'une mère méchante pour les petits-enfants. Il s'en allait avec des gentillesses de petite fille au catéchisme. Il feignait d'être éclairé sur tout, commerce, art, médecine. Je le suivais, il le faut. Je voyais tout le décor dont, en esprit, il s'entourait. Vêtements, draps, meubles. Je lui prêtais des armes. Une autre figure, je voyais tout ce qui le touchait, comme il aurait voulu le créer pour lui. Quand il me semblait avoir l'esprit inerte, je le suivais, moi, dans des actions étranges et compliquées, loin, bonnes ou mauvaises. J'étais sûr de ne jamais entrer dans son monde. À côté de son cher corps endormi, que d'heures des nuits j'ai veillé, cherchant pourquoi il voulait tant s'évader de la réalité. Jamais homme n'eut pareil vœu. Je reconnaissais, sans craindre pour lui, qu'il pouvait être un sérieux danger dans la société. Il a peut-être des secrets pour changer la vie. Non, il ne fait qu'en chercher, me répliquai-je. Enfin, sa charité est ensorcelée, et j'en suis la prisonnière. Aucune autre âme n'aurait assez de force, force de désespoir, pour la supporter, pour être protégée et aimée par lui. D'ailleurs, je ne me le figurais pas avec une autre âme. On voit son ange. Jamais l'ange d'un autre, je crois. J'étais dans son âme,
comme dans un palais qu'on a vidé, pour ne pas voir une personne si peu noble que vous. Voilà tout. Hélas, je dépendais bien de lui. Mais que voulait-il avec mon existence terne et lâche? Il ne me rendait pas meilleur s'il ne me faisait pas mourir. Tristement dépité, je lui dis quelquefois « Je te comprends ». Il haussait les épaules. Ainsi, mon chagrin se renouvelant sans cesse et me trouvant plus égaré à mes yeux, comme à tous les yeux qui auraient voulu me fixer si je n'eusse été condamné pour jamais à l'oubli de tous. J'avais de plus en plus faim de sa bonté. Avec ses baisers et ses étreintes amies, c'était bien un ciel, un sombre ciel, où j'entrais et où j'aurais voulu être laissé, pauvre, sourde, muette, aveugle. Déjà j'en prenais l'habitude. Je nous voyais comme deux bons enfants, libres de se promener dans le paradis de tristesse. Nous nous accordions, bien émus, nous travaillions ensemble. Mais après une pénétrante caresse, il disait « Comme ça te paraîtra drôle, quand je n'y serai plus, ce par quoi tu as passé, quand tu n'auras plus mes bras sous ton cou, ni mon cœur pour t'y reposer, ni cette bouche sur tes yeux, parce qu'il faudra que je m'en aille, très loin, un jour. Puis il faut que j'en aide d'autres, c'est mon devoir, quoique ce ne soit guère ragoûtant, chère âme. » Tout de suite je me pressentais, lui parti, en proie au vertige, précipité dans l'ombre la plus affreuse, la mort. Je lui faisais promettre qu'il ne me lâcherait pas. Il l'a faite 20 fois cette promesse d'amant. C'était aussi frivole que moi, lui disant « Je te comprends ». Ah, je n'ai jamais été jalouse de lui. Il ne me quittera pas, je crois. Que devenir? Il n'a pas une connaissance. Il ne travaillera jamais. Il veut vivre somnambule. Seul, sa bonté et sa charité lui donneraient-elles droit dans le monde réel? Par instant, j'oublie la pitié où je suis tombée. Lui me rendra forte. Nous voyagerons, nous chasserons dans les déserts, nous dormirons sur les pavés des villes inconnues, sans soins, sans peine, où je me réveillerai et les lois et les mœurs auront changé grâce à son pouvoir magique. Le monde, en restant le même, me laissera mes désirs. Joie, nonchalance. Oh, la vie d'aventure qui existe dans les livres des enfants, pour me récompenser, j'ai tant souffert, me la donneras-tu? Il ne peut pas. J'ignore son idéal. Il m'a dit avoir des regrets, des espoirs. Cela ne doit pas me regarder. Parle-t-il à Dieu? Peut-être devrais-je m'adresser à Dieu. Je suis au plus profond de l'abîme. Et je ne sais plus prier. S'il m'expliquait ses tristesses, les comprendrais-je plus que ses railleries? Il m'attaque, il passe des heures à me faire honte de tout ce qui m'a pu toucher au monde, et s'indigne si je pleure. Tu vois cet élégant jeune homme, entrant dans la belle et calme maison? Il s'appelle Duval, Dufour, Armand, Maurice, que sais-je? Une femme s'est dévouée à aimer ce méchant idiot. Elle est morte. C'est certes une sainte au ciel à présent. Tu me feras mourir comme il a fait mourir cette femme. C'est notre sort, à nous, cœur charitable. Hélas, il avait des jours où tous les hommes agissant lui paraissaient les jouets du délire grotesque. Il riait affreusement, longtemps. Puis il reprenait ses manières de jeune mère, de sœur, aimée. S'il était moins sauvage, nous serions sauvés, mais sa douceur aussi est mortelle. Je lui suis soumise. Ah, je suis folle. Un jour peut-être il disparaîtra merveilleusement, mais il faut que je sache s'il doit remonter à un ciel, que je voie un peu l'assomption de mon petit ami. Drôle de ménage. Deuxième partie. Alchimie du verbe. À moi. L'histoire d'une de mes folies.
Depuis longtemps je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéras vieux, refrains niais, rythmes naïfs. Je rêvais croisades, voyages de découverte dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de races et de continents. Je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles. A noir, E blanc, I rouge, O bleu, U vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne et, avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits. Je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges. Loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises, que buvais-je, à genoux dans cette bruyère, entourée de tendres bois de noisetiers, dans un brouillard d'après-midi tiède et vert? Que pouvais-je boire dans cette jeune oise, ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert, boire à ces gourdes jaunes, loin de ma case chérie? Quelque liqueur d'or qui fait suer. Je faisais une louche enseigne d'auberge. Un orage vint chasser le ciel. Au soir, l'eau des bois se perdait sur les sables vierges. Le vent de Dieu jetait des glaçons au mar. Pleurant, je voyais de l'or et ne pus boire. À 4 heures du matin, l'été, le sommeil d'amour dure encore, sous les bocages s'évapore l'odeur du soir fêté. Là-bas, dans leur vaste chantier, au soleil des Hespérides, déjà s'agitent, en bras de chemise, les charpentiers. Dans leur désert de mousse, tranquille, ils préparent les lambris précieux, où la ville peindra de faux cieux. Oh, pour ces ouvriers charmants, sujets d'un roi de Babylone, Vénus quitte un instant les amants, dont l'âme est en couronne. Ô reine des bergers, porte aux travailleurs l'eau de vie, que leur force soit en paix, en attendant le bain dans la mer à midi. La vieillerie poétique avait une bonne part dans mon alchimie du verbe. Je m'habituais à l'hallucination simple. Je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine. Une école de tambour faite par des anges, des calèches sur les routes du ciel, un salon au fond d'un lac, les monstres, les mystères, un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi. Puis j'expliquais mes sophismes magiques avec l'hallucination des mots. Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit. J'étais oisif
en proie à une lourde fièvre. J'enviais la félicité des bêtes, les chenilles qui représentent l'innocence des limbes, les taupes, le sommeil de la virginité. Mon caractère s'aigrissait. Je disais adieu au monde dans d'espèces de romances. Chanson de la plus haute tour. Qu'il vienne, qu'il vienne, le temps dont on s'éprenne. J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie. Craintes et souffrances aux cieux sont parties, et la soif malsaine obscurcit mes veines. Qu'il vienne, le temps dont on s'éprenne, telle la prairie, à l'oubli livrée, grandit et fleurit d'encens et d'ivraies, au bourdon farouche des sales mouches. Qu'il vienne, le temps dont on s'éprenne. J'aimais le désert, les vergers brûlés, les boutiques fanées, les boissons tiédies. Je me traînais dans les ruelles puantes et les yeux fermés, je m'offrais au soleil, dieu de feu. Général, s'il reste un vieux canon sur tes remparts en ruine, bombarde-nous avec des blocs de terre sèche, aux glaces des magasins splendides, dans les salons, fais manger sa poussière à la ville, oxyde les gargouilles, emplis les boudoirs de poudre de rubis brûlante. Oh, le moucheron enivré à la pissotière de l'auberge, amoureux de la bourrache, et que dissout un rayon. Fin. Si j'ai du goût, ce n'est guère que pour la terre et les pierres. Je déjeune toujours d'air, de roc, de charbon, de fer. Mes fins tournées, paissées, fins, le pré des sons, attirer le gai venin des liserons. Manger les cailloux qu'on brise, les vieilles pierres d'église, les galets des vieux déluges, pins semés dans les vallées grises. Le loup criait sous les feuilles, en crachant les belles plumes de son repas de volaille. Comme lui, je me consume. Les salades, les fruits n'attendent que la cueillette, mais l'araignée de la haie ne mange que des violettes. Que je dorme, que je bouille aux autels de Salomon, le bouillon court sur la rouille et se mêle au cédron. Enfin, ô bonheur, ô raison, j'écartais du ciel l'azur qui est du noir, et je vécus, étincelle d'or, de la lumière nature. De joie, je prenais une expression bouffonne et égarée au possible. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. C'est la mer mêlée au soleil. Mon âme éternelle, observe ton vœu, malgré la nuit seule et le jour en feu. Donc tu te dégages des humains suffrages, des communs élans, tu voles selon. Jamais l'espérance, pas d'orietture, science et patience, le supplice est sûr. Plus de lendemain, braise de satin, votre ardeur est le devoir. Elle est retrouvée, quoi ? L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. Je devins un opéra fabuleux.
je vis que tous les êtres ont une fatalité de bonheur. L'action n'est pas la vie, mais une façon de gâcher quelque force, un énervement. La morale est la faiblesse de la cervelle. À chaque être, plusieurs autres vies me semblaient dues. Ce monsieur ne sait ce qu'il fait. Il est un ange. Cette famille est une nichée de chiens. Devant plusieurs hommes, je causais tout haut avec un moment d'une de leurs autres vies. Ainsi, j'ai aimé un porc. Aucun des sophismes de la folie qu'on enferme, n'a été oublié par moi. Je pourrais les redire, tous. Je tiens le système. Ma santé fut menacée. La terreur venait. Je tombais dans des sommeils de plusieurs jours, et levé, je continuais les rêves les plus tristes. J'étais mûr pour le trépas. Et par une route de danger, ma faiblesse me menait aux confins du monde et de la Cimérie, patrie de l'ombre et des tourbillons. Je dus voyager, distraire les enchantements assemblés sur mon cerveau, sur la mer que j'aimais comme si elle eût dû me laver d'une souillure. Je voyais se lever la croix consolatrice. J'avais été damné par l'arc-en-ciel. Le bonheur était ma fatalité, mon remords, mon ver. Ma vie serait toujours trop immense pour être dévouée à la force et à la beauté. Le bonheur, sa dent, douce à la mort, m'avertissait au chant du coq. Ad matutinum, ô Christus bénit, dans les plus sombres villes. Ô saison, ô château, quelle âme est sans défaut. J'ai fait la magique étude du bonheur, qu'aucun n'élude. Salut à lui, chaque fois que chante le coq gaulois. Ah, je n'aurai plus d'envie, il s'est chargé de ma vie. Ce charme a pris âme et corps et dispersé les efforts. Ô saison, ô château, l'heure de sa fuite, hélas, sera l'heure du trépas. Ô saison, ô château. Cela s'est passé. Je sais aujourd'hui saluer la beauté. L'impossible. Ah, cette vie de mon enfance! La grande route par tous les temps, sobre surnaturellement, plus désintéressée que le meilleur des mendiants, fière de n'avoir ni pays, ni amis. Quelle sottise c'était, et je m'en aperçois seulement. J'ai eu raison de mépriser ces bons hommes qui ne perdraient pas l'occasion d'une caresse, parasites de la propreté et de la santé de nos femmes, aujourd'hui qu'elles sont si peu d'accord avec nous. J'ai eu raison dans tous mes dédains. Puisque je m'évade, je m'explique. Hier encore, je soupirais, ciel, sommes-nous assez de damnés ici-bas? Moi, j'ai tant de temps déjà dans leur troupe, je les connais tous, nous nous reconnaissons toujours, nous nous dégoûtons. La charité nous est inconnue, mais nous sommes polis. Nos relations avec le monde sont très convenables. Est-ce étonnant? Le monde, les marchands, les naïfs, nous ne sommes pas déshonorés, mais les élus. Comment nous recevraient-ils? Or, il y a des gens hargneux et joyeux, de faux élus, puisqu'il nous faut de l'audace ou de l'humilité pour les aborder. Ce sont les seuls élus. Ce ne sont pas des bénisseurs. M'étant retrouvé dessous de raison, ça passe vite.
je vois que mes malaises viennent de ne m'être pas figuré assez tôt que nous sommes à l'Occident, les marais occidentaux. Non que je croie la lumière altérée, la forme exténuée, le mouvement égaré. Bon, voici que mon esprit veut absolument se charger de tous les développements cruels qu'a subi l'esprit depuis la fin de l'Orient. Il en veut, mon esprit. Mes dessous de raison sont finis. L'esprit est autorité. Il veut que je sois en Occident. Il faudrait le faire taire pour conclure comme je voulais. J'envoyais au diable les palmes des martyrs, les rayons de l'art, l'orgueil des inventeurs, l'ardeur des pillards. Je retournais à l'Orient et à la sagesse première et éternelle. Il paraît que c'est un rêve de paresse grossière. Pourtant, je ne songeais guère au plaisir d'échapper aux souffrances modernes. Je n'avais pas en vue la sagesse bâtarde du Coran. Mais n'y a-t-il pas un supplice réel en ce que, depuis cette déclaration de la science, le christianisme, l'homme se joue, se prouve les évidences, se gonfle du plaisir de répéter ses preuves et ne vit que comme cela. Torture subtile, niaise, source de mes divagations spirituelles. La nature pourrait s'ennuyer peut-être. Monsieur Prudhomme est né avec le Christ. N'est-ce pas parce que nous cultivons la brume? Nous mangeons la fièvre avec nos légumes à queue, et l'ivrognerie, et le tabac, et l'ignorance, et le dévouement. Tout cela est-il assez loin de la pensée de la sagesse de l'Orient, la patrie primitive? Pourquoi un monde moderne, si de pareils poisons s'inventent? Les gens d'Église diront « c'est compris ». Mais vous parlez de l'Éden. Rien pour vous dans l'histoire des peuples orientaux. C'est vrai, c'est à l'Éden que je songeais. Qu'est-ce que c'est pour mon rêve, cette pureté des races antiques? Les philosophes, le monde n'a pas d'âge. L'humanité se déplace, simplement. Vous êtes en Occident, mais libre d'habiter dans votre Orient, quelque ancien qu'il vous le faille, et d'y habiter bien. Ne soyez pas un vaincu. Philosophe, vous êtes de votre Occident. Mon esprit prend garde. Pas de parti de salut violent. Exerce-toi. Ah, la science ne va pas assez vite pour nous. Mais je m'aperçois que mon esprit dort. S'il était bien éveillé, toujours, à partir de ce moment, nous serions bientôt à la vérité, qui peut-être nous entoure avec ses anges pleurant. S'il avait été éveillé jusqu'à ce moment-ci, c'est que je n'aurais pas cédé aux instincts délétères à une époque immémoriale. S'il avait toujours été bien éveillé, je voguerais en pleine sagesse. Ô pureté, pureté, c'est 7 minutes d'éveil qui m'a donné la vision de la pureté. Par l'esprit, on va à Dieu. Déchirante infortune.
l'éclair. Le travail humain, c'est l'explosion qui éclaire mon abîme de temps en temps. Rien n'est vanité, à la science et en avant, crie l'ecclésiaste moderne, c'est-à-dire tout le monde. Et pourtant les cadavres des méchants et des fainéants tombent sur le cœur des autres. Ah, vite, vite, un peu, là-bas, par-delà la nuit, ces récompenses futures, éternelles, les échappons-nous? Qui puis-je? Je connais le travail, et la science est trop lente, que la prière galope et que la lumière gronde. Je le vois bien, c'est trop simple, et il fait trop chaud. On se passera de moi. J'ai mon devoir, j'en serai fier à la façon de plusieurs, en le mettant de côté. Ma vie est usée. Allons, feignons, fainéantons, oh pitié! Et nous existerons en nous amusant, en rêvant amour monstre et univers fantastique, en nous plaignant et en querellant les apparences du monde, saltimbanque, mendiant, artiste, bandit, prêtre. Sur mon lit d'hôpital, l'odeur de l'encens m'est revenue si puissante. Gardien des aromates sacrés, confesseur, martyr. Je reconnais là ma sale éducation d'enfance. Puis quoi? Allez mes 20 ans, si les autres vont 20 ans? Non, non, à présent je me révolte contre la mort. Le travail paraît trop léger à mon orgueil. Ma trahison au monde serait un supplice trop court. Au dernier moment, j'attaquerai à droite, à gauche. Alors, oh, chère pauvre âme, l'éternité serait-elle pas perdue pour nous? Matin. N'eus-je pas, une fois, une jeunesse aimable, héroïque, fabuleuse, à écrire sur des feuilles d'or? Trop de chance. Par quel crime, par quelle erreur, ai-je mérité ma faiblesse actuelle? Vous qui prétendez que des bêtes poussent des sanglots de chagrin, que des malades désespèrent, que des morts rêvent mal, tâchez de raconter ma chute et mon sommeil. Moi, je ne puis pas plus m'expliquer que le mendiant avec ses continuels pater et ave maria. Je ne sais plus parler. Pourtant, aujourd'hui, je crois avoir fini la relation de mon enfer. C'était bien l'enfer, l'ancien, celui dont le Fils de l'homme ouvrit les portes. Du même désert, à la même nuit, toujours mes yeux là se réveillent à l'étoile d'argent, toujours, sans que s'émeuvent les rois de la vie, les trois mages, le cœur, l'âme, l'esprit. Quand irons-nous, par-delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition, adorer les premiers, Noël sur la terre, le chant des cieux, la marche des peuples, esclaves, ne maudissons pas la vie. Adieu. L'automne déjà. Mais pourquoi regretter un éternel soleil si nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine, loin des gens qui meurent sur les saisons? L'automne. Notre barque élevée dans les brumes immobiles tourne
vers le port de la misère, la cité énorme, au ciel taché de feu et de boue. Ah, les haillons pourris, le pain trempé de pluie, l'ivresse, les mille amours qui m'ont crucifié. Elle ne finira donc point cette goule, reine de millions d'âmes et de corps morts, et qui seront jugés. Je me revois la peau rongée par la boue et la peste, des vers pleins les cheveux et les aisselles, et encore de plus gros vers dans le cœur, étendu parmi les inconnus, sans âge, sans sentiment. J'aurais pu y mourir. L'affreuse évocation. J'exècre la misère. Et je redoute l'hiver parce que c'est la saison du confort. Quelquefois, je vois au ciel des plages sans fin, couvertes de blanches nations en joie. Un grand vaisseau d'or, au-dessus de moi, agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin. J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs. Une belle gloire d'artiste et de conteur emportée. Moi, moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol, avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Paysan, suis-je trompé? La charité serait-elle sœur de la mort pour moi? Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonges. Et allons. Mais pas une main amie. Et où puiser le secours? Oui. L'heure nouvelle est au moins très sévère. Car je puis dire que la victoire m'est acquise. Les grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs empestés se modèrent. Tous les souvenirs immondes s'effacent. Mes derniers regrets détalent. Les jalousies pour les mendiants, les brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes. Damné si je me vengeais. Il faut être absolument moderne. Point de cantique. Tenir le pas gagné. Dure nuit. Le sang séché fume sur ma face et je n'ai rien derrière moi que cet horrible arbrisseau. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes. Mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul. Cependant, c'est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle. Et à l'aurore, armé d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes.
que parlais-je de ma amie? Un bel avantage, c'est que je puis rire des vieilles amours mensongères et frapper de honte ces couples menteurs. J'ai vu l'enfer des femmes là-bas. Et il me sera loisible de posséder la vérité dans une âme et un corps.
Charleville, le 24 mai 1870, à Monsieur Théodore de Banville. Cher maître, nous sommes au mois d'amour. J'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères, comme on dit. Et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la muse, pardon si c'est banal, à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes. Moi j'appelle cela du printemps. Que si je vous envoie quelques-uns de ces vers, et cela en passant par Alf Lemaire, le bon éditeur, c'est que j'aime tous les poètes, tous les bons parnassiens, puisque le poète est un parnassien, épris de la beauté idéale. C'est que j'aime en vous, bien naïvement, un descendant de Ronsard, un frère de nos maîtres de 1830, un vrai romantique, un vrai poète. Voilà pourquoi, c'est bête, n'est-ce pas, mais enfin. Dans 2 ans, dans 1 an peut-être, n'est-ce pas, je serai à Paris. Anch'io, messieurs du journal, je serai parnassien. Je ne sais ce que j'ai là, qui veut monter, je jure, cher maître, d'adorer toujours les deux déesses, muse et liberté. Ne faites pas trop l'amour en lisant ces vers, vous me rendriez fou de joie et d'espérance si vous vouliez, cher maître, faire à la pièce, credo in unam, une petite place entre les parnassiens. Je viendrais à la dernière série du Parnasse, cela ferait le credo des poètes. Ambition, ô folle! Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Ophélie. Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys. Flotte très lentement, couchée en ses longs voiles. On entend dans les bois lointains des alalis. Voici plus de 1000 ans que la triste Ophélie passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir. Voici plus de 1000 ans que sa douce folie murmure sa romance à la brise du soir. Le vent baise ses seins et déploie en corolle ses grands voiles bercés mollement par les eaux. Les saules frissonnants pleurent sur son épaule, sur son grand front rêveur s'inclinent les roseaux. Les nénuphars froissés soupirent autour d'elle. Elle éveille parfois dans un aune qui dort quelques nids d'où s'échappe un petit frisson d'aile. Un chant mystérieux tombe des astres d'or. Ô pâle Ophélia, belle comme la neige, oui, tu mourus, enfant, par un fleuve emporté. C'est que les vents tombant des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. C'est qu'un souffle, tordant ta grande chevelure, à ton esprit rêveur portait d'étranges bruits, que ton cœur écoutait le chant de la nature, dans les plaintes de l'arbre et les soupirs des nuits, c'est que la voix des mers folles, immense râle, brisait ton sein d'enfant, trop humain et trop doux. C'est qu'un matin d'avril, un beau cavalier pâle, un pauvre fou, s'assit muet à tes genoux. Ciel, amour, liberté, quel rêve, ô pauvre folle, tu te fondais à lui comme une neige au feu, tes grandes visions étranglaient ta parole, et l'infini terrible effara ton œil bleu. Et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit les fleurs que tu cueillis et qu'il a vu sur l'eau coucher en ses longs voiles la blanche Ophélia flotter comme un grand lys.
Si ces vers trouvaient place au Parnasse contemporain, ne sont-ils pas la foi des poètes? Je ne suis pas connu, qu'importe, les poètes sont frères. Ces vers croient, ils aiment, ils espèrent, c'est tout. Cher maître, à moi, levez un peu, je suis jeune, tendez-moi la main.
Arthur Rimbaud. Lettre du voyant. À Georges Isambard, Charleville, mai 1871. Cher monsieur, vous revoilà professeur. On se doit à la société, m'avez-vous dit. Vous faites partie des corps enseignants, vous roulez dans la bonne ornière. Moi aussi, je suis le principe. Je me fais cyniquement entretenir. Je déterre d'anciens imbéciles de collège. Tout ce que je puis inventer de bête, de sale, de mauvais, en action et en parole, je le leur livre. On me paye en boc et en fille. Je me dois à la société, c'est juste. Et j'ai raison. Vous aussi, vous avez raison. Pour aujourd'hui. Au fond, vous ne voyez en votre principe que poésie subjective, votre obstination à regagner le râtelier universitaire, pardon, le prouve. Mais vous finirez toujours comme un satisfait qui n'a rien fait, n'ayant rien voulu faire, sans compter que votre poésie subjective sera toujours horriblement fadasse. Un jour, j'espère, bien d'autres espèrent la même chose, je verrai dans votre principe la poésie objective, je la verrai plus sincèrement que vous ne le feriez. Je serai un travailleur. C'est l'idée qui me retient, quand les colères folles me poussent vers la bataille de Paris, où tant de travailleurs meurent pourtant encore, tandis que je vous écris. Travaillez maintenant, jamais, jamais, je suis en grève. Maintenant, je m'en crapule le plus possible. Pourquoi? Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout, et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu, par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète, et je me suis reconnu poète. Ce n'est pas du tout ma faute. C'est faux de dire « je pense ». On devrait dire « on me pense ». Pardon du jeu de mots. « Je » est un autre. Tant pis pour le bois qui se trouve violon, et nargue aux inconscients qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait. Vous n'êtes pas enseignant pour moi. Je vous donne ceci. Est-ce de la satire, comme vous diriez? Est-ce de la poésie? C'est de la fantaisie, toujours. Mais je vous en supplie, ne soulignez ni du crayon, ni trop de la pensée.
Le cœur supplicié. Mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur est plein de caporal. Ils y lancent des jets de soupe. Mon triste cœur bave à la poupe. Sous les quolibets de la troupe, qui pousse un rire général. Mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur est plein de caporal. Ityphaliques et pioupiesques, leurs insultes l'ont dépravé. À la véprée ils font des fresques, ityphaliques et pioupiesques. Ô flots abracadabrantesques, prenez mon cœur, qu'il soit sauvé. Ityphaliques et pioupiesques, leurs insultes l'ont dépravé. Quand ils auront tari leur chic, comment agir? ô cœur volé. Ce seront des refrains bachiques, quand ils auront tari leur chic, j'aurai des sursauts stomachiques, si mon cœur triste est ravalé, quand ils auront tari leur chic, comment agir, ô cœur volé. Ça ne veut pas rien dire. Répondez-moi chez Monsieur de Verrières, pour Arthur Rimbaud, bonjour de cœur. À Paul Demeny, Charleville, mai 1871. J'ai résolu de vous donner une heure de littérature nouvelle. Je commence de suite par un psaume d'actualité. Chant de guerre parisien. Le printemps est évident, car du cœur des propriétés vertes, le vol des tiers et de Picard tient ses splendeurs grandes ouvertes. Ô mai, quel délirant cul nu! Sèvres, Meudon, Bagneux, Asnières, écoutez donc les bienvenus, semez les choses printanières. Ils ont shako, sabre et tam-tam, n'ont la vieille boîte à bougies, et des yoles qui n'ont jam, jam, fendent le lac aux eaux rougies. Plus que jamais nous bambochons, quand arrivent sur nos tanières crouler les jaunes cabochons dans des aubes particulières. Thiers et Picard sont des Eros, des enleveurs d'héliotropes. Au pétrole ils font des coraux, voici hannetonner leur trope. Ils sont familiers du grand truc, et couchés dans les glaïeuls, Favre fait son sciement à queduc et ses reniflements à poivre. La grand ville a le pavé chaud, malgré vos douches de pétrole, et décidément, il nous faut vous secouer dans votre rôle. Et les ruraux qui se prélassent dans de longs accroupissements entendront des rameaux qui cassent parmi les rouges froissements. Voici de la prose sur l'avenir de la poésie. Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque, vie harmonieuse. De la Grèce au mouvement romantique, Moyen-Âge, il y a des lettrés, des versificateurs. Tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire, d'innombrables générations idiotes. Racine est le pur, le fort, le grand. Après Racine, le jeu moisi, il a duré 2000 ans. On n'a jamais bien jugé le romantisme. Qui l'aurait jugé? Les critiques? Les romantiques qui prouvent si bien que la chanson est si peu souvent l'œuvre, c'est-à-dire la pensée chantée et comprise du chanteur. Car jeu est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Cela m'est évident, j'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute, je lance un coup d'archet. La symphonie fait son remuement dans les profondeurs ou vient d'un bond sur la scène. Si les vieux imbéciles n'avaient pas trouvé du « moi » que la signification fausse, nous n'aurions pas à balayer ces millions de squelettes qui, depuis un temps infini, ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse en s'en clamant les auteurs. En Grèce, ai-je dit, vers et lyre, rythme, l'action. Après, musique et rime sont jeu, délassement. L'étude de ce passé charme les curieux. Plusieurs s'éjouissent à renouveler ces antiquités. C'est pour eux. L'intelligence universelle a toujours jeté ses idées, naturellement. Les hommes ramassaient une partie de ces fruits du cerveau. On agissait par... On en écrivait des livres. Telle allait la marche, l'homme ne se travaillant pas, n'étant pas encore éveillé, ou pas encore dans la plénitude du grand songe. Des fonctionnaires, des écrivains. Auteur, créateur, poète, cet homme n'a jamais existé. La première étude de l'homme qui veut être poète est sa propre connaissance, entière. Il cherche son âme. Il l'inspecte, il la tente, l'apprend. Dès qu'il la sait, il doit la cultiver. Cela semble simple. en tout cerveau s'accomplit un développement naturel, tant d'égoïstes se proclament auteurs. Il en est bien d'autres qui s'attribuent leur progrès intellectuel, mais il s'agit de faire l'âme monstrueuse, à l'instar des comprachicos, quoi. Imaginez un homme s'implantant et se cultivant des verrues sur le visage. Je dis qu'il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le grand criminel, le grand maudit et le suprême savant, car il arrive à l'inconnu. Puisqu'il a cultivé son âme déjà riche, plus qu'aucun, il arrive à l'inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l'intelligence de ses visions, il les a vues, qu'il crève dans son bondissement par les choses inouïes et innombrables. Viendront d'autres horribles travailleurs. Ils commenceront par les horizons où l'autre s'est affaissé. J'ai l'archet en main, je commence. Mes petites amoureuses. Un hydrolat lacrymal lave les cieux vert choux, sous l'arbre tendronnier qui bave vos caoutchoucs, blancs de lune particulière, aux pieds à la ronde, entrechoquez vos genouillères, mes laiderons. Nous nous aimions à cette époque, bleu laideron. On mangeait des œufs à la coque et du mouron. Un soir, tu me sacras poète, blond laideron. Descends ici que je te fouette en mon giron. J'ai dégueulé ta bandoline, noir laideron. Tu couperais ma mandoline au fil du front. Pois, mes salives desséchées, roux laideron. Infecte encore les tranchées de ton sein rond. Ô mes petites amoureuses, que je vous hais, plaquez de fouffes douloureuses vos tétons laids, piétinez mes vieilles terrines de sentiments. Hop donc, soyez-moi ballerine pour un moment. Vos omoplates se déboîtent, ô mes amours, une étoile à vos reins qui boite, tournez vos tours. Et c'est pourtant pour ces éclanches que j'ai rimé. Je voudrais vous casser les hanches d'avoir aimé. Fade amas d'étoiles ratées, comblez les coins. Vous crèverez en Dieu, battez d'ignobles soins. Sous les lunes particulières, aux pieds à la ronde, entrechoquez vos genouillères, mes laiderons. Donc le poète est vraiment voleur de feu. Il est chargé de l'humanité, des animaux même. Il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est informe, il donne de l'informe. Trouver une langue. Du reste, toute parole étant idée, le temps d'un langage universel viendra. Il faut être académicien, plus mort qu'un fossile, pour parfaire un dictionnaire de quelque langue que ce soit. Des faibles se mettraient à penser sur la première lettre de l'alphabet qui pourrait vite ruer dans la folie. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, résumant tout, parfum, son, couleur, de la pensée accrochant, la pensée étirant. Le poète définirait la quantité d'inconnus s'éveillant en son temps dans l'âme universelle. Il donnerait plus que la formule de sa pensée, que la notation de sa marche au progrès. Énormité devenant norme, absorbée par tous, il serait vraiment un multiplicateur de progrès. Cet avenir sera matérialiste, vous le voyez, toujours plein du nombre et de l'harmonie. Ces poèmes seront faits pour rester, Au fond, ce serait encore un peu la poésie grecque. L'art éternel aurait ses fonctions, comme les poètes sont citoyens. La poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant. Ces poètes seront. Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par elle, l'homme, jusqu'ici abominable, lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi. La femme trouvera de l'inconnu. Ces mondes d'idées différeront-ils des nôtres? Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses. Nous les prendrons, nous les comprendrons. En attendant, demandons aux poètes du nouveau, idées et formes. Tous les habiles croiraient bientôt avoir satisfait à cette demande. Ce n'est pas cela. Les premiers romantiques ont été voyants sans trop bien s'en rendre compte. La culture de leurs âmes s'est commencée aux accidents. Locomotive abandonnée, mais brûlante, que prennent quelque temps les rails. Lamartine est quelquefois voyant mais étranglé par la forme vieille. Hugo, trop cabochard, a bien du vu dans les derniers volumes. Les Misérables sont un vrai poème. J'ai les châtiments sous main. Stella donne à peu près la mesure de la vue de Hugo. Musset est 14 fois exécrable pour nous. Génération douloureuse et prise de vision, que sa paresse d'ange a insultée. Oh les contes, les proverbes, fadas, oh les nuits, oh Rolla, oh Namuna, oh la coupe, tout est français, c'est-à-dire haïssable au suprême degré, français, pas parisien. Encore une œuvre de cet odieux génie qui a inspiré Rabelais, Voltaire, Jean de La Fontaine. Charmant son amour. En voilà de la peinture à l'émail, de la poésie solide. On savourera longtemps la poésie française. Mais en France, tout garçon épicier est en mesure de débobiner une apostrophe rolaque, tout séminariste emporte les 500 rimes dans le secret d'un carnet. À 15 ans, ses élans de passion mettent les jeunes en rut, à 16 ans, il se contente déjà de les réciter avec cœur, à 18 ans, à 17 même, tout collégien qui a le moyen fait le rola, écrit un rola. Quelques-uns en meurent peut-être encore. Musset n'a rien su faire, il y avait des visions derrière la gaze des rideaux. Il a fermé les yeux. Français, traîné de l'estaminet au pupitre de collège, le beau mort est mort, et désormais, nous nous donnons même plus la peine de le réveiller par nos abominations. Les seconds romantiques sont très voyants. Théophile Gautier, le comte de Lille, Théodore de Banville. Mais inspecter l'invisible et entendre l'inouï, étant autre chose que reprendre l'esprit des choses mortes, Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai dieu. Encore a-t-il vécu dans un milieu trop artiste, et la forme si vantée en lui est mesquine. Les inventions d'inconnus réclament des formes nouvelles. Voilà, ainsi, je travaille à me rendre voyant. Et finissons par un chant pieux. Accroupissement. Bien tard, quand il se sent l'estomac écœuré, le frère Milotus, un œil à la lucarne, d'où le soleil, clair comme un chaudron récuré, lui darde une migraine et fait son regard d'arne, déplace dans les draps son ventre de curé. Il se démène sous sa couverture grise et descend ses genoux à son ventre tremblant, effaré comme un vieux qui mangerait sa prise, car il lui faut le poing à l'anse d'un pot blanc, à ses reins largement retrousser sa chemise. Or, il s'est accroupi, frileux, les doigts de pied repliés, grelottant au clair soleil qui plaque des jaunes de brioche aux vitres de papier, et le nez du bonhomme où s'allume la laque renifle au rayon tel qu'un charnel polypier. Le bonhomme mijote au feu, bras tordus, lippe au ventre, il sent glisser ses cuisses dans le feu et ses chauds se roussir et s'éteindre sa pipe, quelque chose comme un oiseau remue un peu à son ventre serein comme un monceau de tripes. Autour dort un fouillis de meubles abrutis dans des haillons de crasse et sur de sales ventres. Des escabeaux, crapauds étranges, sont blottis au coin noir. Des buffets ont des gueules de chantre qu'entr'ouvre un sommeil plein d'horribles appétits. L'écœurante chaleur gorge la chambre étroite. Le cerveau du bonhomme est bourré de chiffons. Il écoute les poils pousser dans sa peau moite, et parfois, en hoquet fort gravement bouffon, s'échappe, secouant son escabeau qui boite. Et le soir, aux rayons de lune, qui lui font au contour du cul des bavures de lumière, une ombre avec détail s'accroupit sur un fond de neige rose, ainsi qu'une rose trémière. Fantasque, un nez poursuit Vénus au ciel profond. Vous seriez exécrable de ne pas me répondre. Vite, car dans 8 jours, je serai à Paris, peut-être. Au revoir. Arthur Rimbaud.
Laïtou, mai 73. Cher ami, tu vois mon existence actuelle dans l'aquarelle ci-dessous. Ô nature, ô ma mère, quelle chérie et quel monstre d'innocence ces paysans. Il faut le soir faire 2 lieues et plus pour boire un peu. La mother m'a mis là dans un triste trou. Je ne sais comment en sortir, j'en sortirai pourtant. Je regrette cet atroce Charlestown, l'univers, la bibliothèque, etc. Je travaille pourtant assez régulièrement, je fais de petites histoires en prose, titre général, livre païen ou livre nègre, c'est bête et innocent. Oh innocence, 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 innos, fléau. Verlaine doit avoir donné la malheureuse commission de parlementer avec le sieur Devin, imprimeur du Nord-Est. Je crois que ce Devin pourrait faire le livre de Verlaine à assez bon compte et presque proprement. S'il n'emploie pas les caractères emmerdés du Nord-Est, il serait capable d'en coller un cliché, une annonce. Je n'ai rien de plus à te dire. La contemplostate de la nature m'absorculant tout entier. Je suis à toi, ô nature, ô ma mère. Je te serre les mains dans l'espoir d'un revoir que j'active autant que je puis. Je rouvre ma lettre. Verlaine doit avoir proposé un rendez-vous au dimanche 18, à Bouillon. Moi, je ne puis y aller. Si tu y vas, il te chargera probablement de quelques fragments en prose de moi ou de lui à me retourner. La mère Rimbe retournera à Charlestown dans le courant de juin, c'est sûr. Et je tâcherai de rester dans cette jolie ville quelque temps. Le soleil est accablant et il gèle le matin. J'ai été avant-hier voir les Prusmars à Vouziers, une préfecture de 10 000 âmes, à 7 kilomètres d'ici. Ça m'a ragaillardi. Je suis abominablement gêné. Pas un livre, pas un cabaret à portée de moi, pas un incident dans la rue. Quelle horreur que cette campagne française. Mon sort dépend de ce livre pour lequel une 12 d'histoires atroces sont encore à inventer. Comment inventer des atrocités ici? Je ne t'envoie pas d'histoire. Quoique j'en ai déjà 3, ça coûte tant. Enfin, voilà. Au revoir, tu verras ça. Rimbe. Prochainement, je t'enverrai des timbres pour m'acheter et m'envoyer le Faust de Goethe, bibliothèque populaire. Ça doit coûter 1 sou de transport. Dis-moi s'il n'y a pas des traductions de Shakespeare dans les nouveaux livres de cette bibliothèque. Si même tu peux m'en envoyer le catalogue le plus nouveau, envoie. R. Londres, vendredi après-midi. Reviens, reviens, cher ami, seul ami, reviens. Je te jure que je serais bon. Si j'étais Mossad avec toi, c'est une plaisanterie où je me suis entêté. Je m'en repens, plus qu'on ne peut dire. Reviens, ce sera bien oublié. Quel malheur que tu aies cru à cette plaisanterie. Voilà 2 jours que je ne cesse de pleurer. Reviens. Sois courageux, cher ami, rien n'est perdu.
tu n'as qu'à refaire le voyage. Nous revivrons ici bien courageusement, patiemment. Ah, je t'en supplie, c'est ton bien, d'ailleurs. Reviens, tu retrouveras toutes tes affaires. J'espère que tu sais bien à présent qu'il n'y avait rien de vrai dans notre discussion, l'affreux moment. Mais toi, quand je te faisais signe de quitter le bateau, pourquoi ne venais-tu pas? Nous avons vécu 2 ans ensemble pour arriver à cette heure-là. Que vas-tu faire? Si tu ne veux pas revenir ici, veux-tu que j'aille te retrouver où tu es? Oui, c'est moi qui ai eu tort. Oh, tu ne m'oublieras pas, dis. Non, tu ne peux pas m'oublier. Moi, je t'ai toujours là. Dis, réponds à ton ami. Est-ce que nous ne devons plus vivre ensemble? Sois courageux, réponds-moi vite. Je ne puis rester ici plus longtemps. N'écoute que ton bon cœur. Vite, dis si je dois te rejoindre. À toi toute la vie. Rimbaud. Vite, réponds. Je ne puis rester ici plus tard que lundi soir. Je n'ai pas encore un penny. Je ne puis mettre ça à la poste. J'ai confié à Vermersch tes livres et tes manuscrits. Si je ne dois plus te revoir, je m'engagerai dans la marine ou l'armée. Oh, reviens, à toutes les heures je repleure. Dis-moi de te retrouver, j'irai, dis-le-moi, télégraphie-moi. Il faut que je parte lundi soir. Où vas-tu, que veux-tu faire? Cher ami, j'ai ta lettre, datée, en mer. Tu as tort, cette fois, et très tort. D'abord, rien de positif dans ta lettre. Ta femme ne viendra pas ou viendra dans 3 mois, 3 ans, que sais-je. Quand t'as claqué, je te connais. Tu vas donc, en attendant ta femme et ta mort, te démener, errer, ennuyer des gens. Quoi, toi, tu n'as pas encore reconnu que les colères étaient aussi fausses d'un côté que de l'autre? Mais c'est toi qui aurais les derniers torts, puisque, même après que je t'ai rappelé, tu as persisté dans tes faux sentiments. Crois-tu que ta vie sera plus agréable avec d'autres que moi? Réfléchis-y. Ah! Certes non. Avec moi seul tu peux être libre, et puisque je te jure d'être très gentil à l'avenir, que je déplore toute ma part de tort, que j'ai enfin l'esprit net, que je t'aime bien, si tu ne veux pas revenir, ou que je te rejoigne, tu fais un crime, et tu te repentiras de longues années par la perte de toute liberté et des ennuis plus atroces peut-être que tous ceux que tu as éprouvés. Après ça, ressonge à ce que tu étais avant de me connaître. Quant à moi, je ne rentre pas chez ma mère. Je vais à Paris. Je tâcherai d'être parti lundi soir. Tu m'auras forcé à vendre tous tes habits. Je ne puis faire autrement. Ils ne sont pas encore vendus. Ce n'est que lundi matin qu'on me les emporterait. Si tu veux m'adresser des lettres à Paris, envoie à Forain 289 rue Saint-Jacques pour Arthur Rimbaud. Il saura mon adresse. Certes, si ta femme revient, je ne te compromettrai pas en t'écrivant. Je n'écrirai jamais. Le seul vrai mot, c'est « Reviens, je veux être avec toi, je t'aime. » Si tu écoutes cela, tu montreras du courage et un esprit sincère. Autrement, je te plains, mais je t'aime, je t'embrasse et nous nous reverrons. Rimbaud. 8 Great Call, etc. Jusqu'à lundi soir ou mardi à midi, si tu m'appelles.